Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Au bout du foot. Avec nous ce soir, du bon monde, Daniel à la technique. On a un peu de retard, hein, désolé de ce léger contretemps, enfin ce gros contretemps même, on peut vous dire ça. En tout cas, on va parler de football, voilà, ça n'a pas changé, on va parler de football, encore de football. Comment ça va Jason?
Ça va et toi Eladj?
Ça va super, et toi Maxence, comment ça va?
Ça va super, ça va super.
Théo, comment ça va?
Ça va, salut tout le monde.
Salson,
ouais, présent.
Retour, ça fait un petit moment.
De retour, ouais, vous m'avez manqué tous.
Bonne semaine de football.
Très bonne semaine de football. Et on en a encore une qui arrive.
Donc, ah oui, il y a une très bonne semaine. Donc, ah, ça, ouais. Donc,
ça enchaîne.
Ok, donc tu penses que ça va mettre fin à la série de 15 sur 15, c'est ça?
Oh, je parle du football en global, hein. Je parle pas que du Paris Saint-Germain, ça c'est un autre cas.
Mais
on en reparlera.
Faut en parler aussi, bien évidemment. Ok. On va parler de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui ont fait 4 points sur deux journées. Marseille qui n'ont pas pu faire mieux. Et Lyon aussi qui ont perdu des points. Ça a été une semaine assez, on va dire, assez riche, hein, un peu sur les résultats. En tout cas, ça a été un peu surprenant. On peut dire ça comme ça. Deux matchs de Ligue 1 en une semaine. On a été régalé. C'est la seule fois de l'année, c'était la seule journée où il y avait une journée de Ligue 1 en pleine semaine comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette semaine de football, Jason?
Franchement, un peu étonné des résultats. Les résultats de mercredi entre le PSG qui se fait accrocher, Marseille pareil, il y a Monaco qui a pu profiter et Strasbourg qui ont pu profiter des mauvais résultats des autres en haut de tableau. Et la tendance est inversée sur le week-end. C'est les équipes qui ont pris des points mercredi, ont perdu des points mercredi et vice-versa. Donc ça rebâtit les cartes. Donc le championnat reste aussi collé. Paris garde la tête et Marseille a pu renouer avec la victoire malgré, on va dire, à retenir que les 3 points. Parce qu'un match très 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 compliqué face à une équipe auxerroise qui joue le maintien et qui n'a pas de finisseur devant. Et Monaco, après le beau match contre Nantes, enchaîne avec une défaite face au Paris FC. Donc oui, il y a des bonnes choses dans la Ligue 1 et aussi à féliciter le retour du FC Metz.
Merci Jason. Voilà, t'as fait un petit résumé du tout. Théo, qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette semaine de football?
En vrai, c'était cool d'avoir deux journées de championnat en une semaine, même si on sait que pour les organismes, c'est un peu plus compliqué et les clubs, ils sont pas très très contents. Ça permet de voir des dynamiques se mettre en place, bah, à l'image de Metz, hein, qui a été à juste titre très critiqué, mais qui a proposé des belles choses là, cette semaine, à voir si ça tiendra dans la durée et ce n'était pas que pour les deux journées. On commence aussi à voir d'autres tendances, notamment des inquiétudes de mon côté pour le FC Nantes, qui patine, qui avance vraiment pas. On a demandé un peu de patience pour le jeu du nouveau coach, mais franchement, là, on... Cette défaite, à domicile face à Metz, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et en haut du classement, je trouve que ça reste assez serré, même si chacun perd un petit peu des points de son côté. Strasbourg se fait surprendre par Rennes. Le PSG perd quelques points à Lorient parce qu'ils sont accrochés, ils sont incapables de marquer, mais ça se rattrape bien. Et encore, ils passent par la fenêtre face à Nice, qui refuse totalement le football, mais ça permet d'avoir des clubs différents et voir surtout des dynamiques différentes. Donc, ça qui est intéressant.
Merci Théo. Oui, on a pu voir Lens déjà perdre à Metz. On a pu voir Pierre Sage mécontent, hein, furieux même en conférence de presse. Hein, et c'est le cas de le dire parce que tu perds contre une équipe qui joue le maintien, qui sont au fin fond du trou. Et là, Metz qui se relance, hein, mine de rien, en une semaine, il se relance, ça fait 6 points. C'est l'une des seules équipes même à faire 6 points sur ces deux matchs-là. Qu'est-ce que t'en penses, Maxence?
Oui, parce que Metz, pour être très honnête, moi dans ma tête, ils étaient déjà à peu près condamnés. Au bout de 10 matchs, ils avaient un point ou deux, il me semble. Et puis au-delà de l'aspect L'aspect nombre de points par match, c'était plutôt ce qu'on voyait sur le terrain. Les prestations, elles étaient catastrophiques. Côté Metz, ils en prenaient beaucoup chaque week-end. C'était pas des courtes défaites. Et je comprends du coup la déception de Pierre Sage en allant perdre face à Metz en pleine semaine. Parce que là, s'ils avaient gagné ce match-là, ils auraient été seuls leaders aujourd'hui. Parce qu'ils ont pu gagner ce week-end pour se rattraper de ce faux pas. Après, historiquement, les journées de Ligue 1 en semaine comme ça, au milieu de deux autres matchs, c'est très rare que les gros fassent tous le taf. Il y a toujours des surprises sur ces matchs-là. C'est toujours compliqué. Sur trois matchs de Ligue 1 en une semaine, c'est très rare qu'une équipe fasse 9 sur 9. Donc, ce n'est pas surprenant que même les gros se prennent les pieds dans le tapis un petit peu. Après, pour moi, à l'heure actuelle, en Ligue 1, tout le monde a sa place. Là, on peut voir que les gros sont plutôt en haut. C'est Paris qui est devant, Marseille derrière avec Monaco, Lille, Lens, dans le désordre, mais dans cette idée-là. Et derrière, on a déjà ceux qui vont se livrer une bataille pour le maintien. Auxerre, Nantes, Metz, ça va être les équipes qui vont être en galère toute la saison. Donc pour moi, tout le monde est plus ou moins à sa place avec un milieu de tableau, PFC, Rennes, Toulouse, des équipes qu'on attendait à peu près à ce stade-là. Donc pas de grosse surprise à part, Lens qui surperforme en étant troisième pour l'instant. Et il faut saluer le travail de Pierre Sage avec un effectif qui est intéressant, mais sans grande star. Et voilà, pour le reste c'est du classique.
Merci Maxence. Salson, on a pu voir Habib Bey sur la select. Habib Bey qui a fait 2-2 avec Rennes et enfin pour son dernier match. Habib Bey qui avait été annoncé limogé, ensuite non, pas licencié. Au final, il est là. Et ce qu'il disait juste avant le match, c'est « je suis là parce que la direction et le staff ont confiance en moi pour que je puisse ramener les 3 points face à Toulouse. » Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, 2 buts partout. Et ce qui a surpris, c'est qu'il a quand même été maintenu à son poste. Et en sachant qu'il devait jouer Strasbourg juste après, tout le monde se disait « aïe, mais comment se relancer face à Strasbourg ?» Et bien Habib Bey nous a montré comment se relancer face à Strasbourg sans Seko Fofana, en réintégrant Ludovic Blas aussi, dans la plaque tournante, on va dire, parce qu'il a pu jouer quelques minutes. Et Rennes qui se sont imposés 4-1 face à une équipe strasbourgeoise qui a fait de grands débuts en Ligue 1. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ?
Bah, moi je pensais que c'était fini pour Habib Bey. C'était mardi matin, ils avaient annoncé sa démission, son licenciement plutôt. Ouais. Et moi je me suis dit c'est fini. Et après une heure après, on a vu qu'au final il était maintenu. Donc je sais pas, il y a peut-être eu des discussions, ils ont peut-être laissé vraiment une dernière chance. Et là on l'a vu dans sa composition. Il s'est séparé de Seko Fofana, Ludovic Blas, et c'est tout, je crois. Ouais, ces deux joueurs-là, c'est deux gros joueurs quand même du Stade Rennais. Ils ont fait 2-2, mais ils se prennent un but à la dernière, dans les 5 dernières minutes, je crois.
Et ils mènent 2-0, ils se font attraper, hein, c'est ce qui arrive souvent
dernièrement. Ils se font égaliser. Et après, là, à Strasbourg, par contre, ils ont fait le travail. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, Habib Bey, maintenant, il a mis en place, si on peut le dire, il a mis en place vraiment ce qu'il voulait mettre, parce que je pense qu'il était un peu rodé depuis le début de saison. Il y a des joueurs comme Seko Fofana, on ne pouvait pas, comme on le disait en off tout à l'heure, ça, c'est des joueurs, on ne pouvait pas les laisser sur le banc.
Même Mbolo, il a mis Mbolo sur le banc aussi.
C'est des joueurs, ils ont des gros salaires, et je pense que le Stade Rennais, ils doivent imposer à Habib Bey de mettre ces joueurs-là. Et là, il a commencé à mettre ses petits jeunes comme il sait le faire, comme il aime faire. Les Maïté leur donner confiance avec Cissé et toute la compagnie. Donc là, je pense, c'est maintenant qu'on va voir si vraiment, là, il peut garder sa place avec le Stade Rennais. C'est pas, ce match-là, il veut rien dire. C'est bien pour la confiance. Mais c'est maintenant qu'on va voir vraiment s'il a encore sa place sur le banc.
Rennes qui iront au Paris FC, hein, le Paris FC qui était dominé et qui perdait 3-0 face à Lyon, hein, un match extraordinaire où il y a eu 2 cartons rouges, hein, de part et d'autre. Théo, on a pu voir tout simplement le Paris FC revenir entre les morts, on peut dire ça comme ça.
Ouais, là c'est pareil, hein. Il y a eu quelques matchs de cette veine-là cette saison déjà, super spectaculaire en fait, hein. On s'attendait vraiment pas à les voir ressortir comme ça de leur chapeau ces 3 buts, hein, remonter comme ça. Mais plus que ça, moi je suis très content en fait pour le Paris FC parce que ça a été un petit peu en dilettante depuis le début de la saison. Et là, je trouve qu'ils trouvent un petit peu leur train, ils arrivent à rester constants en fait. Ils commencent à C'est plus des surprises en fait, voilà. C'est plus des surprises, ils trouvent un niveau qui est assez constant et ils pourront jouer largement le milieu de tableau, le milieu haut de tableau entre guillemets quoi.
Merci Théo. Jason ?
Oui, le Paris FC, très belle performance. Je pense que très peu s'attendaient à voir ça depuis leur téléviseur. Hein. Quand on voyait Lyon mener 3 buts à 0, moi-même je m'étais dit les carottes sont cuites. Et après le rouge, le Paris FC qui revient au score, mais malgré ça, derrière, ils prennent un carton rouge. Donc on s'était dit que le score allait rester ainsi. Et au final, la remontada est arrivée. Et franchement, pour le groupe du Paris FC, ça va leur faire du bien parce que c'est une équipe qui tourne plutôt bien, qui est pas forcément, qui fait pas des mauvaises performances, que ce soit contre les gros ou les petits. Donc, ils répondent souvent au rendez-vous. Donc, le temps que la mayonnaise prenne, faut pas être trop exigeant avec eux car il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cet effectif. Mais ils font un très très bon début de saison pour un promu qui, on va dire, un faux promu car il y a beaucoup de joueurs d'expérience. Mais franchement, pour le début de saison qu'ils font, moi je suis très étonné et j'apprécie vraiment ce qu'ils font. Et il faut quand même féliciter quand même le coach du Paris FC qui n'est pas très connu et qui fait du bon boulot. Hein.
Merci Jason. Lens 3-0, on a parlé un peu de Lens. Les Lillois qui sont imposés 1 but à 0 face à Angers, hein, et Lille qui n'ont pas réussi à s'imposer face à Nice et qui ont perdu 2 buts à 0 face à Nice. Nice, une équipe un peu bizarre, hein, Nice qui se sont imposés face à Lille 2 buts à 0 et qui arrive au Paris Saint-Germain en faisant le bus pendant 95 minutes et au bout du bout, le Paris Saint-Germain qui réussit à arracher la victoire grâce à un but de Gonzalo Ramos. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça, Maxence ?
Pour moi, Nice et Lille, c'est vraiment les deux équipes les plus illisibles de cette saison.
C'est-à-dire que.
Ouais, Monaco un petit
peu. Parce que Monaco aussi,
ouais,
c'est vrai, Monaco c'est qui s'impose face à Nantes
et qui va perdre derrière au PFC.
Et
ouais.
Perdre au
c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes dans ce cas-là, mais Nice et Lille, je trouve ça, que ce soit sur toutes les compétitions, parce qu'en Ligue Europa, Lille, c'est pareil, ils font un super premier match et derrière, ils perdent à domicile contre le PAOK en prenant 4. Donc, c'est des choses. Qu'on ne peut pas imaginer. Et Nice, c'est une équipe que j'aime pas du tout personnellement, que ce soit dans leur production de football et même dans leur comportement en Europe depuis maintenant plus d'un an. Depuis deux ans, on frôle le ridicule, voire même on l'atteint très souvent. Donc Nice, moi, cette équipe me plaît pas, mais ils accueillent Lille et ils gagnent 2-0 plutôt tranquillement en milieu de semaine. Donc c'est vraiment à n'y rien comprendre. Et ils sont pas loin de faire une grosse semaine parce qu'ils sont pas loin de faire 0-0 au Parc et d'avoir une semaine en jouant Lille-PSG à 4 points. Ce qui aurait été très 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 bien payé pour eux. Donc ils passent pas loin du braquage total. Mais c'est pas une équipe en laquelle je crois plus que ça pour la suite. Et je pense qu'ils finiront 7-8e. Et c'est mieux pour la Ligue 1 qu'ils finissent à cette place-là qu'ils aient pas à nous représenter en Coupe d'Europe l'année prochaine.
Merci Maxence. On va faire, bien évidemment, on va... rappeler le classement pardon du Paris Saint-Germain avec premier avec 24 points, Marseille deuxième avec 22 points à égalité avec Lens, 22 points, Lille quatrième avec 20 points à égalité avec Monaco et Lyon 20 points, Strasbourg qui ont perdu des points qui sont septième avec 19 points et pour le bas de tableau, Metz qui se sont relancés et Metz qui passe, c'est la seule équipe, Metz, qui aurait misé dessus, hein, la seule équipe qui fait 6 sur 6 en deux matchs là cette semaine. Metz qui sont d'ailleurs maintenant 17e et Auxerre, eux, ils ont du mal et ils sont 18e, Auxerre 18e, Lorient 16e avec 9 points, voilà, de Auxerre à Brest, ça se tient sur 3 petits points. À n'importe quel match, tout le monde peut se trouver au fond, voilà, en tout cas dans les relégables. Voilà ce qui était de la Ligue 1. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec bien évidemment la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, Maxence, on va revenir avec la Ligue des Champions juste après.
Pas première ligue.
De retour dans les locaux de mon Paris FM, on va parler de la Champions, hein. Bien évidemment un match aussi au sommet demain entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Le Paris Saint-Germain qui vont accueillir le Bayern de Munich avec Désiré Doué qui s'est blessé dernièrement, hein. Ça sera un peu affaibli côté Paris Saint-Germain, mais on pense aussi à Moussiala de l'autre côté qui manquera aux côtés des Munichois. Quels sont vos pronostics, messieurs ? On aura aussi le même jour, le même moment, on aura un Liverpool Real Madrid,
là, Liverpool. C'était mon coup de gueule déjà sur la programmation, c'est pas possible de nous mettre ces deux matchs-là le même jour. Le même jour, je peux comprendre, mais pas les mêmes horaires ou quelque chose comme ça.
De toute façon, tu fais jouer quelle équipe à
19h ? Ouais, c'est
aucune.
Ça.
Aucune. Donc, c'est pas deux, le même jour, normalement. Juste,
non,
juste...
parce qu'après, il y a des histoires de pour la journée, il y a des histoires de droits télé. Par exemple, le Real, ils peuvent pas jouer le même jour que l'Atlético ou que le Barça.
Bien sûr, mais
Liverpool,
ils inversent.
Liverpool, pareil, ils en ont 6.
Ils inversent. Le Barça, ils jouent contre...
Non, mais Liverpool, je pense que le problème, c'est les Anglais. Parce que les Anglais, ils sont trop nombreux. Ils sont genre 6 dans la Ligue des Champions. Et donc ça leur fait trop de matchs. Enfin bref, s'ils le font comme ça, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est écœurant pour tout passionné de football de devoir revoir un match, soit en replay après, ça n'a pas la même saveur, soit de regarder la moitié de chacun, mais c'est quand même différent. Donc ouais, c'est le petit regret de cette semaine, on va dire.
C'est le petit regret de cette semaine, mais en tout cas, moi j'ai choisi. Hein. Je serai au parc demain, bien évidemment. On va voir ce que ça va donner à domicile. Salé, est-ce qu'on espère te... Bah, je pense que toi aussi, t'as choisi.
Bien évidemment.
Ça sera le Paris Saint-Germain demain.
On va regarder surtout le Bayern, comment il va se comporter, comment le Paris Saint-Germain va se comporter, on va dire, contre un vrai adversaire cette saison. Même le Bayern aussi, ça va être un bon test aussi. En fait, dans les deux côtés, ça va être un bon match. Après, moi, personnellement, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, malheureusement, je vois un peu le Bayern bien nous titiller au Parc des Princes, mais je vois pas le Bayern, en tout cas, perdre.
Bien nous titiller, c'est-à-dire... Ah, donc tu ne vois pas le Bayern perdre, donc tu verrais plus le Paris Saint-Germain perdre que le Bayern, alors?
Ouais. Bon, c'est mon avis.
Bon, ouais. Salsan, toi, d'habitude, qui a l'air si confiant, qui nous avait dit aussi que le Paris Saint-Germain allait gagner la Ligue des Champions face à l'Inter, qui parlait avec cette confiance. Oui. Et là, franchement, tu voilà, la veille, tu nous dis...
J'aurais le pensé, mais je pense que ça va être un match nul ou une victoire du Bayern. Mais si le PSG gagne, moi, c'est magnifique, elle est belle, je la prends, je le prends.
Mais pour toi, le Bayern ont plus d'atouts que le Paris Saint-Germain.
Pour moi, le Bayern est favori sur ce match, de ce qu'ils produisent depuis le début de saison. Après, le Paris Saint-Germain, c'est entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, il y a un petit contrat, c'est vrai. Mais j'attends de voir comment ça va se comporter demain.
C'est vrai que les bookmakers ont été assez serrés dans les côtes, en tout cas, Paris Saint-Germain qui sont favoris, mais de très peu. Théo, toi, est-ce que tu partages le même avis que Salé ?
Ou plutôt, ouais, je suis assez, je suis assez frileux pour demain.
Les Parisiens, qu'est-ce qui se passe là ? Ça va pas ?
Après, on demande qu'à être surpris. Je pense que... En fait, je trouve que la rencontre va être sur un fil, ça va vraiment se jouer sur des détails, parce que pour moi, les deux équipes ont, entre guillemets, les mêmes niveaux de jeu, même si je trouve que le Bayern est plus constant, c'est-à-dire qu'il roule sur toute la Bundesliga, alors qu'en parallèle, Paris a un peu plus de mal en Ligue 1, titube un petit peu. Mais, comme tu l'as très bien dit, il y a un gap entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions et le niveau qu'affiche le PSG aussi en Ligue des Champions.
Après, je dis ça, excuse-moi, juste en t'interrompre, je dis ça juste parce que le Paris Saint-Germain est aussi un peu affaibli.
Aussi,
avec,
ouais.
Mais
là, il y a les majeurs retours qui commencent à arriver.
Ils ne sont pas encore au
mais
top
Dembélé,
de leur...
Mais Dembélé aura quelques minutes, il
quelques
sera pas titulaire.
Doué qui n'est pas là.
Doué s'est reblessé
en plus. Vois. Et en plus, maintenant, tu as Mbaye qui a été rétrogradé en U19. T'as Neves qui vient de revenir.
On va commencer à parler d'Mbaye comme une grosse perte non plus pour le PSG. Ça va.
Pourquoi il a été rétrogradé?
On peut rentrer dans les détails.
Changement de conseiller.
Le
il est passé avec la famille Mbappé, ouais, c'est compliqué.
Nasser n'a pas apprécié, je
il
pense.
Est passé, ouais,
peut-être pas le meilleur choix quand t'es
au Paris Saint-Germain
de passer avec la famille Mbappé. Mais...
Je te dis pas que c'est une grosse perte, mais je t'ai dit, là, c'est des mecs qui. C'est un joueur qui pouvait. Voilà, être dans la rotation, donc t'as pas d'autres options, quoi. À part Kongili, peut-être. Bon, Kongili qui est un peu meilleur depuis le début.
Ouais, mais je préfère le voir au milieu, Kongili, quoi.
Oui, que sur les côtés, bien évidemment. Mais bon, je te dis que juste un Paris Saint-Germain un peu plus affaibli que d'habitude. Et un Bayern Munich qui, lui, au contraire, est au top de sa forme depuis le début de saison. Donc c'est pour ça que je vois le Bayern favori pour moi.
Ouais, c'est pour ça que moi je suis frileux, je trouve ça difficile à pronostiquer, en fait. Ça va jouer sur un fil, ça va jouer sur ses détails, en fait. Ça va surtout être... défensivement, à voir comment le PSG va savoir défendre contre le Bayern, parce qu'on sait que c'est une machine à rouler sur cet adversaire. À voir qui sera en charnière, si c'est Zabarni Pacho ou ce sera Marquinhos Pacho. Moi, je pense que ce sera Marquinhos. Et comment Paris va savoir gérer Harry Kane, hein, le problème Harry Kane tout de même. Donc, un peu compliqué. Voilà.
En tout cas, ça risque d'être passionnant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxence ?
Moi déjà, je vais peut-être calmer un peu l'enthousiasme, mais ces gros matchs-là qui arrivent si tôt dans la saison, je tire pas d'enseignement là-dessus et pour moi ça n'aura pas vraiment de valeur.
C'est pour le fun.
C'est pour le fun. Là, on a le premier et le deuxième de la saison régulière de Ligue des Champions qui s'affrontent.
Les deux vont se qualifier.
Les deux seront dans le top 8, sans aucun doute. Donc, et on l'a vu l'année dernière avec le PSG, hein, qui avait croisé Arsenal et qui avait croisé le Bayern en poule, qui avait perdu ces deux matchs-là. Et au final, ils se sont recroisés en mars et avril.
C'est pour la hype, comme le PSG-Barça. Oui, ouais, le PSG-Barça, quand je l'ai regardé avec des potes, on l'a regardé comme si c'était une demi-finale. Tu vois, tu sais que les deux, au final, ils vont se qualifier, mais ça met de la hype, ça met un peu de piment.
Mais pour moi, je ne le regarderais pas comme une demi-finale. Oui, parce je le regarde comme un match
parce que c'est pas ton
de saison. Non, mais même si c'est même mon équipe. Enfin, je veux dire, c'est, s'il n'y a pas d'intérêt sportif. C'est comme s'il y avait un amical demain PSG-OM, je ne le regarderais pas de la même manière.
Ça reste quand même des belles affiches.
Ça reste des belles affiches, mais pour moi, il n'y a aucun intérêt à en tirer. Il n'y a pas de conclusion à tirer.
Ça
n'a
pas
donné
de
quelle manière que ce soit.
Pour la suite, non.
Donc pour moi, c'est juste un gros test pour les deux équipes.
Mais ça reste quand même des matchs. Ça restera quand même des matchs références qui peuvent donner un ton sur le. Je ne dis pas que c'est ces matchs-là qui. Forcément, on va dire ce que le PSG va être demain ou autre, mais tu peux voir comment.
Ouais, mais tu vois que les équipes, des équipes. L'an dernier, les équipes qui avaient un match référence en novembre, Liverpool, le Bayern, Arsenal, c'est pas les équipes qui sont allées au bout.
Bah parce que c'est le PSG qui est qui a fait une remontada de morale ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Oui, mais même l'Inter en novembre, c'était pas les meilleurs. Hein, de
toute façon, les gros, on a toujours dit ici sur ce plateau.
C'est après que ça se jouera.
Les grosses équipes, leur saison commence à partir de février.
Exactement. Et limite, ça m'inquiète un peu d'être si fort si tôt concernant le Bayern. Si près. Si tôt dès maintenant, ça veut dire que pour aller gagner,
c'est un peu comme Liverpool, quoi.
Et un peu comme Liverpool l'an dernier.
En sachant que Liverpool avait un banc plus abouti, parce que là, si Harry Kane ou Luis Diaz ou Michael Olise se blessent par malheur.
Après, la seule différence,
t'as
c'est
des petits comme Carl a envoyé Jackson. C'est
Liverpool
pas...
a aussi un championnat qui est beaucoup plus exigeant. Oui. Alors que le Bayern est déjà quasiment champion et peut se permettre de commencer à faire tourner. Un peu comme le PSG a fait l'année dernière en Ligue 1, avec une marge de 10 ou 15 points. Et ils peuvent commencer à faire tourner sur la deuxième partie de saison. Et ça, c'est intéressant pour ces clubs-là qui arrivent en 8e, quart de finale des champions. Et qui peuvent, la semaine d'avant, les mettre tous au frigo. L'année dernière, deuxième partie de saison, Hakimi, Dembélé, Nuno Mendes, ils n'ont pas joué tant de matchs de Ligue 1 que ça. Et le Bayern peut faire la même chose avec ce week-end, Kane qui était sur le banc, Olise qui était sur le banc et qui était déjà focus sur le match du PSG. Ce que les équipes anglaises peuvent pas faire, parce que les équipes anglaises, c'est la guerre tous les week-ends, les places sont chères, le podium est très dur à aller chercher. Donc pour moi, c'est le petit hic concernant les Anglais. Et je disais, ouais, je m'inquiète un petit peu pour le Bayern, pas pour demain, mais à long terme. Parce que je les vois mal tenir ce niveau-là qui est pour moi extraordinaire sur 10 mois de l'année. Ça me paraît.
De toute façon, on en a eu des exemples pas mal ces dernières saisons. C'est dur de garder, je suis d'accord avec toi, c'est dur de garder cette constance pendant tout le long de la saison. Et surtout que là, on est en début novembre. Et ils sont en train de mettre quoi, 15 matchs, 15 victoires.
C'est compétition confirmée. Très très long. C'est très long. Et après, oui, au moment T, par rapport à ce qu'on voit sur les championnats respectifs, on voit le Bayern qui est quand même un peu plus maître de son sujet que le PSG actuellement. Mais sur un match de Ligue des Champions, on connaît aussi la possibilité du PSG de se remettre en ordre de bataille.
Je juge en l'état. Je juge en l'état.
Ouais, mais on le voit pas vraiment, l'état du PSG. Parce que tu n'auras jamais les.
C'est pour ça que je mets plutôt favori, parce qu'ils ont un enchaînement. Et Paris Saint-Germain, pour l'instant, c'est un peu en dents de scie.
Oui, et puis même dans les
championnats.
Dans les compos, ça gère le temps de jeu de chacun. Mais en Ligue des Champions, les mecs jouent une demi-heure, ils rejouent une heure, etc. Donc t'as pas tout le monde en même temps. Hakimi Mendes joue rarement les deux en même temps.
Le match de demain, c'est pour la hype. Je te dis pas que ce match-là il va dessiner l'avenir du Paris Saint-Germain comme celui du Bayern. Le Bayern, demain, ils perdent. Ça va rien changer leur début de saison. Ils vont continuer à.
Mais tu vois, moi, bizarrement, je suis plus hypé. Parce que Bayern-PSG, on sait que les deux sont prêts et globalement ils seront prêts dans 2-3 mois. Je suis plus hypé demain par le Liverpool-Real, parce que Liverpool, c'est pour moi un mystère, on sait pas trop où ils en sont. Ils ont bien commencé, derrière ils ont eu un gros coup de mou, là ça reprend à peu près, donc gros test. Et en face t'as le Real qui avait bien commencé, a eu une grosse chute contre l'Atlético, mais derrière a bien mené son classico en battant le Barça. Et donc là, ça peut être soit la confirmation du Real qui sont vraiment de retour sur le devant de la scène, ou alors la rechute. Et donc, pour moi, j'ai un peu plus d'indécision, on va dire. Alors que sur le Bayern-PSG, peu importe, s'il y a une des équipes qui perd, je vais pas l'enterrer ou tirer de conclusion. Sur Liverpool-Real, le perdant, à mon avis, a plus de soucis à se faire.
Après, je pense un match à Anfield comme ça... Un match nul, je pense, même une défaite.
Une défaite
du Real. Là, il faut savoir que le Real, sur les 15 matchs, c'est 14 victoires. Les 14 c'était plus arrivé depuis 1974 que le Real démarre aussi fortement. Donc oui, ils ont eu une défaite contre l'Atlético, mais tout le reste,
mais encore une fois,
et
y a,
même dans le
y
jeu,
y perdre,
dans, dans la production, dans le tout, là, on a pu le voir, hein, face à Valence, c'est une petite équipe, il n'y a pas de souci, mais l'année dernière, tu perds contre Valence.
Bien sûr, non,
aujourd'hui,
mais...
tu gagnes 4-0 contre Valence avec la manière, non, mais... avec un pénalty loupé, avec beaucoup de choses.
Non, mais cette année,
du coup, tu sens une différence quand même.
Mais
un
on
peu,
l'avait le, dit, on
la
l'avait
patte
dit
ici, Xabi
d'ailleurs.
Alonso commence à se mettre en place.
Après, il y a perdre et perdre. C'est-à-dire que s'ils perdent demain en field 2-1, ça ne me dérange pas. Et si la prestation est bonne, et il y a des faits de jeu, et c'est le football, c'est, on en a vu d'autres. Par contre, c'était la façon de perdre contre l'Atlético qui m'avait un peu dérangé, parce qu'à ce moment-là, on
tactiquement,
tressait
des, oui. Après, tressait je pense que louanges. Ça s'est joué tactiquement.
Ouais, ouais, mais on tressait des louanges au Real à ce moment-là, en disant, début de saison, on voit vraiment la différence, il y a quelque chose. Et là, ils en prennent pas un, pas deux, ils en prennent cinq contre l'Atlético, qui n'est pas un géant européen, qu'on le veuille ou non. Donc moi, c'est juste ça que je veux voir demain. S'ils en prennent encore 5 à Anfield, on va pouvoir se poser des questions. Mais j'y crois pas. Je pense que ce sera plus serré. Non, j'aurais aimé le Real s'imposer là-bas.
Moi, comme pour le match, là, tu vois, je donne mon avis. Le Real, pour moi, est favori.
Kylian Mbappé a une revanche à prendre contre Liverpool, hein, l'année dernière. Ça s'était mal passé. Ouais. Après, on sait, Real, c'est un peu la bête noire de Liverpool, hein, ces derniers temps. Du coup, là, jouer ta bête noire dans une période où tu n'es pas aussi bon, qu'est-ce que t'en penses, Jason?
Moi, déjà, pour revenir sur le match du PSG, pour moi, le PSG ne perdra pas demain. Le PSG a montré que même en étant amoindri, ça restait une équipe très dangereuse. Et je pense que ce match, si le PSG le gagne, ça enverra encore plus un message à l'Europe pour dire faites attention. En gros, que même, regardez, en étant amoindri, le PSG a battu le Barça. Et là, en ayant des joueurs qui reviennent, on va dire un peu à l'état de forme, s'ils arrivent encore à battre le Bayern, là, les équipes vont commencer à se poser des questions, à se dire, là, on les affronte alors qu'ils ne sont pas à 100%. Alors, qu'est-ce que ça va être si c'est à 100%? Donc, les équipes vont, pour les tours prochains, peut-être aborder leur match différemment que là, maintenant. Car là, le Bayern, tout le monde les met en avant, certes, parce qu'ils ont enchaîné, je crois, 15 victoires d'affilée. Mais il ne faut pas oublier que le Bayern, ils n'ont affronté personne. Ils ont affronté des
Chelsea
équipes,
quand même en Ligue des Champions.
Ah, Chelsea, c'est plus ce que c'était. Ça commence à revenir, mais,
ah, mais
ça reste un Chelsea.
Ils gagnent leur match. Tu vois que l'état de forme, tu vois qu'il est, il est présent et ça tombe
moi,
bien.
Même pas Chelsea, il... l'état de forme.
Non, Bayern. Je parle Bayern.
Oui, non, mais c'est même pas le fait qu'il les gagne, c'est la manière, moi, qui me
choque. Oui, la manière. Voilà.
Ce week-end, ils font tourner Leverkusen 3-0 mi-temps.
C'est pas des 1-0 ou des matchs tirés. C'est des corrections comme ils le faisaient il y a 2-3 ans.
Le match est plié au bout d'une demi-heure.
En fait, ils dominent leur match.
Ah oui, il n'y a pas de souci. Ils peuvent dominer leur match. Mais comme là, on a vu qu'ils ont dominé les Leverkusen, et les Leverkusen, ils ont pris une raclée contre le PSG. Ouais. Donc, faut pas se focaliser que sur les raclées qui mettent le Bayern. Faudra voir l'opposition de demain. Mais moi, j'attends bien de voir, par exemple, des Upamecano qui seront mis en difficulté sur des passes en profondeur sur Barcola ou autre, ou des duels face à Xvara. C'est pas les mêmes attaquants qu'ils vont affronter. Ça sera pas les mêmes prises de profondeur parce que c'est une équipe qui prend beaucoup de risques, le Bayern. Et encore, on m'aurait dit, si on était à la Bayern Arena, j'aurais dit peut-être que là, il y aurait quelque chose. Mais attention au PSG à domicile. On sait très bien que la Ligue 1 et la Ligue des Champions, le PSG, c'est pas le même mood. Ils sont en mode super guerrier en Ligue des Champions. Ils ont beau mettre les poussins, on a l'impression que l'équipe, elle est tout aussi forte comme si le schéma était déjà inclus dans le cerveau de chacun et que tout le monde était connecté. Et après, en revenant pour... le match du Real de Madrid, on attend une bonne opposition, j'espère en tout cas. Et comme je disais en off aux collègues, j'ai envie de voir Mbappé face à une grosse défense pour voir ce que ça donne. Et j'espère qu'il ne décevra pas parce qu'en championnat, il cartonne. Mais il faut cartonner contre les gros parce que pour moi, le Barça, certes, c'est un gros, mais c'est une équipe où leur défense est du gruyère. Donc pour moi, ce n'est pas une vraie opposition derrière. Donc là, il a une vraie opposition de style. Donc j'attends de voir, et en plus à l'extérieur, pour voir ce que ça donne. Et comme tu as dit, Eladj, de rattraper par rapport à son match de l'année dernière, là où il a été catastrophique.
Merci Jason pour ça. Théo, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Juventus Sporting, de Manchester City, qui joueront à domicile face à Dortmund, et bien évidemment de nos amis marseillais à domicile qui vont jouer face à l'Atalanta, le Marseille qui ont perdu face au Sporting, hein, et là qui devront se relancer tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses?
Je t'avoue que le match de la Juve, je vais sans doute pas le regarder, puisque je serai devant...
parce que t'aimes le football.
Le PSG. Et honnêtement, je pense que la Juve va l'emporter, mais j'attends pas grand-chose d'un match comme ça. Voilà, je suis pas... J'en attends pas grand-chose parce que je pense que ce sera pas super super beau. C'est à la Juve, c'est là-bas, c'est en Italie. Bon, ça peut être. Je peux me tromper, hein, évidemment. Pour Marseille, c'est à domicile, si je me trompe pas.
C'est à domicile, c'est ça, sur Vélodrome. Ouais. L'Atalanta qui les avait battus l'année dernière.
Je pense qu'ils peuvent vraiment prendre leur revanche. Je pense qu'ils peuvent les battre à domicile, Marseille. Ils ont les armes pour. On a vu que l'Atalanta, c'est pas. C'est largement à leur portée, en fait. Voilà. C'est très clairement.
L'Atalanta, cette année, c'est faible. C'est vrai que c'est très faible. Mais on a pu voir face au Paris Saint-Germain. Mais Marseille aussi, dernièrement, qui ne sont pas en réussite. Hein, et ne pas réussir à battre le Sporting après des débuts, même s'il y a eu quelques faits de jeu. Mmh. Et là, jouer face à l'Atalanta comme ça, est-ce que c'est pour autant que ça sera un match facile? En tout cas, Salson, qu'est-ce que tu en penses?
Je dirais pas un match facile, mais je pense que. Tu vois, les Marseillais, là, je pense qu'ils vont réussir à se rattraper un peu, ils vont se réveiller, ça va aller, ça va. Je sais pas si on va dire les deux derniers matchs, le dernier, là, ils gagnent 1-0, ça. Et l'autre, là, contre Angers, ils font quoi?
2-2.
Ils font 2-2. Ça, c'est.
Et en Ligue des Champions, ils perdent 2-1.
Ouais, ils perdent 2-1, mais c'est ils mènent 1-0 en plus, je crois.
Ils mènent 1-0.
Ils mènent 1-0 oui. Pendant un long moment.
À la mi-temps.
Non, moi, je pense qu'ils vont réussir à faire un bon résultat. Et là, on va dire, c'est toutes les erreurs qu'ils ont faites, je crois qu'ils ont appris. Et là, ils ont des Zerbi, il a quand même l'expérience. Là, l'équipe est peut-être un peu éteinte, et là, ça va reprendre une dynamique. J'ai confiance en eux. Hein. J'espère.
Maxence, est-ce que tu as confiance aussi en ton équipe Marseille à domicile face à l'Atalanta?
Déjà, pour commencer, je pense que match facile pour l'OM en Ligue des Champions cette année, il n'y en aura pas. Déjà, ça n'existe pas. Peu importe le match, que ce soit contre les Belges, contre Newcastle, contre l'Atalanta, ce ne sera jamais facile. Mais comme je l'avais dit pour l'Ajax il y a maintenant quelques semaines, c'est un match qui est dans la catégorie de l'OM. C'est-à-dire qu'il y a eu deux matchs dans la catégorie de l'OM pour l'instant. C'est l'Ajax et c'est le Sporting. L'Atalanta, ça rentre dans la même catégorie. Qu'on le veuille ou non, c'est à peu près. Là, ils ont 4 points. L'OM en a 3, qui est juste derrière, 17e contre 18e au classement. C'est la place de l'OM. Donc, pour moi, à domicile, bien sûr, l'OM se doit de faire un résultat. Après, une défaite, ça rendrait la chose très compliquée. Un match nul, ça te laisse dans la course. Parce que pour moi, devant, ça va très vite cette année. Contrairement à l'an dernier, où certains gros avaient démarré un peu tranquillement, à l'image du PSG, de City. Cette année, tout le monde va très vite devant. Et donc, je pense que ça se qualifiera autour de 9 points. Déjà, t'es bien dans le classement. Donc, imaginons une victoire de l'OM qui les mettrait à 6 points en 4 matchs. C'est avec 4 matchs à jouer pour une victoire derrière, tout reste jouable. Après, je trouve que autant en Ligue 1, j'aime pas forcément la production de l'OM sur tous les matchs, notamment les derniers qui sont pour moi pas loin d'être catastrophiques. Depuis les 30 premières minutes à Lens qui sont bonnes, derrière les trois matchs suivants, c'est très compliqué. Autant en Ligue des Champions, je trouve que le bilan est pour l'instant plutôt sévère. Le match au Bernabeu qui tourne sur un fait de jeu voilà, critiquable, on peut le dire, mais si tu sors avec un point de ce match-là, c'est pas choquant. Derrière la victoire contre. Bah, il y a quand même un pénalty qui n'existe pas. Enfin,
il y a quand même 27 tirs côté Paris Saint-Germain, excepté de goal à plus de 4. Rouli qui a sorti des parades extraordinaires. Oui. Donc, sortir avec
ouais,
un point
t'étais
de là-bas,
c'était un partout jusqu'à une erreur d'arbitrage. Donc, après, c'est qu'on le veuille ou non. Mais c'est. Voilà, après, c'est le Bernabeu, c'est comme ça, c'est avec des champions, on commence à connaître la recette. Mais voilà, derrière l'Ajax, tu fais un très bon match. Et pour moi, le Sporting t'a prouvé que t'étais au-dessus de cette équipe-là. Tu te mets dedans tout seul et t'es trahi. Le problème, c'est que t'es trahi par des.
Par le coach,
des joueurs,
par le choix.
Déjà, par coachs. Les choix du coach et par tes joueurs d'expérience. Parce qu'Emerson, c'est un de tes joueurs les plus expérimentés. Il a gagné l'Euro, il a joué en première ligue. Il connaît un petit peu ces gros matchs-là et c'est lui qui va te planter sur une erreur de jeunesse. La simulation, si c'est Robinho Vaz qui l'a fait, je lui en veux pas pareil. Il est jeune et tout. Là, c'est un mec à 30 ans qui te fait ça à ce moment-là. Il trahit un petit peu ton équipe et derrière, on a vu que même en deuxième mi-temps, le Sporting n'était pas si dangereux que ça. Et les deux buts, c'est un peu coup du sort de ça tape le mollet de Pavard, ça l'homme roulit.
C'était un double Pavard.
C'était compliqué.
Qui couvre sur leur jeu et
déjà.
Juste après la main,
donc,
soit il y a pénalty, soit il y a
mais,
but.
Mais pour moi, la manière d'entamer le match de l'OM face au Sporting était très très bonne. Et t'étais supérieur à cette équipe-là. Donc c'est clairement 3 points de perdu. Mais pour moi, il faut redémarrer de la même manière contre l'Atalanta. Il n'y a pas de raison que ça se passe très mal. C'est une équipe du niveau de l'OM. Par contre, si c'est l'OM de la Ligue 1 qu'on voit récemment contre Angers, contre Lens, contre Auxerre, là, il y a du souci à se faire. Parce qu'en face, même si on dit que l'Atalanta, c'est quand même moyen, ils ont battu Bruges en Ligue des Champions il y a une semaine. On a vu ce que Bruges a fait à Monaco, donc c'est pas une équipe de peintres. Il y a Lookman qui est de retour aussi dans cette équipe-là. On sait qu'il a le moyen de changer le visage de cette équipe un peu à lui tout seul.
Avec donc, Scamacca aussi de retour.
Aussi Scamacca qui est de retour. Après, quoi qu'il arrive, ce sera pas mort parce qu'il restera des matchs jouables, mis à part Liverpool, mais il restera trois matchs jouables, Newcastle,
même
Club
Liverpool,
Bruges,
pourquoi pas, hein, on disait ça avec Toulouse. Toulouse ont réussi.
Avec les champions, c'est pas pareil. Mais
l'équipe B en hein, premier à Toulouse aussi, ça faut pas oublier. Ils avaient mis l'équipe B, ils ont fait rentrer tout le monde à la mi-temps.
Mais en tout cas, ce qui est à retenir pour moi, c'est que cette année, ça se jouera pas très haut pour le classement. On voit que l'OM a 3 points en 3 matchs, ce qui n'est pas exceptionnel. Et malgré ça, tu es 18e. Donc, tu es quand même encore très bien placé pour les barrages. 18e sur 36, tu es en plein milieu du classement, malgré un début qui n'est pas fou.
Oui, mais il n'y a pas eu de raclée non plus. Du coup, même la différence de but, ça compte.
Elle est très bien, bien sûr. Ouais. Et c'est là que le 4-0 contre l'Ajax prend toute sa place et que tes défaites sont très courtes, 2-1, 2-1, en ayant marqué à chaque fois. Et exactement, et ça a du sens. Donc je pense que voilà, l'OM a toutes ses chances.
On va surtout voir comment ils vont se comporter depuis leur coup de mou, là.
Ouais, exactement, voir s'ils arrivent à se relever.
Mais moi, je pense qu'ils vont se relever.
Je suis plutôt confiant.
Je pense qu'ils vont faire un
En plus, tu as pu reposer tes hommes forts ce week-end. Ouais. Haggard qui n'a pas joué, Greenwood qui n'a pas joué, Pechao qui est rentré à la 70e, donc qui a joué 20 minutes. Il y a de quoi faire, je pense.
Monaco, qui vont aller à Bodø/Glimt. Est-ce que, Jason, tu penses que
à Bodø/Glimt, c'est pas un match... C'est une équipe que j'ai beaucoup suivi, que je connais depuis plusieurs années. Parce que c'est une équipe que je connais depuis plusieurs années. Donc, il faut pas y aller en terrain vaincu là-bas, parce que surtout qu'avec le froid, c'est une équipe qui joue bien au football, qui peut surprendre, qui est bientôt à la fin de son championnat. Là, qui est deuxième de son championnat, qui se bat encore pour la lutte pour le titre. Monaco qui commence un peu à revenir, mais bon, qui se cherche toujours dans le jeu. Il y a eu un très bon match face à Nantes et une rechute face au Paris FC. Donc, il y aura quelques réglages à ajuster. Mais attention, parce que Bodø/Glimt, ça peut être la surprise. C'est pas
sur synthétique en plus, je crois, non ?
Sur synthétique,
ouais,
c'est ça.
C'est un beau bourbier là-bas.
Terrain tout petit, un petit stade à l'anglaise. Donc
ça peut être piège.
Et par rapport à l'OM, moi je dis qu'il faut faire attention, parce que ça, c'est le match typique qui peut relancer l'Atalanta. Et surtout que Marseille aime trop relancer les clubs. Donc, il faut faire très gaffe à ça. L'Atalanta, ça peut être le retour, peut faire un retour de leur saison sur ce match-là, avec ce qui avait été annoncé avec le retour de Lookman et Scamacca. Donc, attention. Et Marseille, il ne faut pas qu'ils se fassent dépasser par l'enjeu, parce que souvent, quand l'enjeu prend le dessus, on sait comment ça termine. Et en espérant qu'ils savent maîtriser leurs nerfs et jouer du public face à cette équipe.
Merci Jason. On a aussi Manchester City qui vont jouer à domicile face à Dortmund. Hein. City qui se relance, qui avait gagné à Villarreal, maintenant ils se relancent. Barcelone qui vont aller au Club Bruges. Qu'est-ce que t'en penses, Salsen ?
Club Bruges, de toute façon, depuis le début de saison, Club Bruges, ils ont pris des... Ah non, ils avaient mis 4-1 à l'AS Monaco. Mais ouais. ils sont pris après...
Oui, ils ont pris une bonne...
Une déculottée contre qui, déjà, là ? Contre... Mince, j'ai oublié.
Bruges.
Contre Bayern. Contre le Bayern.
4-0, oui.
Bah, le Barça, je pense qu'ils vont s'imposer. Hein. C'est quoi, c'est officiel Bruges, le match ?
Oui, c'est officiel Bruges.
C'est officiel Bruges. Ouais, je pense que ça, c'est une formalité, je pense.
Et pour toi, c'est une formalité que le FC Barcelone gagne à Club Rouge ?
Pour moi, c'est Barça, pour moi, au-dessus du Club Rouge quand même. Mmh. Ah ouais, carrément.
Moi, je suis pas d'accord. Je vois bien le match piège. J'ai encore vu le Barça ce week-end. J'ai pas été impressionné du tout. Défensivement, c'est toujours aussi friable. Et une équipe comme Elche qui joue devant avec des joueurs André Silva, etc., qui sont pas des joueurs de Rafa Mir, qui sont pas des joueurs de profondeur exceptionnels, ont pu les mettre en difficulté plusieurs fois. T'as encore Rafinha qui est pas là, Lewandowski qui revient de blessure, Yamal qui joue sur une demi-jambe, il accélère plus, il frappe plus, donc c'est un peu compliqué de jouer au ballon dans cette forme-là. Moi, Pedri qui est absent pour blessure aussi, je sens bien la surprise. Moi, ça me choquerait pas en tout cas que Club Bruges arrive à faire un résultat, un exploit en tout cas face à ce Barça-là.
En plus, c'est à domicile Bruges.
En plus,
ouais. Mais bon, je les vois pas. Okay. Bruges, c'est faible un peu.
Et pourquoi pas vous voyez d'autres affiches qui pourraient vous hyper un peu? Newcastle, Atlético Bilbao, Benfica, ouais, Bayer Leverkusen, Inter, Kairat, je pense que les dés sont jetés. Manchester City, Dortmund, non, ça vous hype pas
le retour d'Haaland quand même.
Oui,
face
le
à
retour.
En plus, il est pas trop en forme en ce moment, il en met que deux par match, donc il en mettra peut-être trois.
Non, moi, c'est la paire Cherki Haaland qui me tente de voir. Là.
Les revoir là, c'est très fort.
Un peu Cherki est revenu à.
Et Naples, pourquoi pas Naples se relancer après cette déculottée face à Francfort?
Naples en Ligue des Champions, c'est pas possible. C'est Conte l'entraîneur. Conte en Ligue des Champions, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Donc Naples, j'y crois pas du tout. Autant en Première Ligue.
Francfort aussi qui ont pris une déculottée.
En Serie A, je les vois bien. Autant en Ligue des Champions, Naples, c'est.
Franchement, face à Francfort, moi, je les vois bien se relancer. Hein. Francfort, c'est une équipe qui est même prendre des
portes ouvertes.
Je les vois bien, je vois bien un match
pour redorer le blason. Exactement. Quand même après le 6-2 face à PSV Eindhoven.
Je les vois bien gagner avec quelques buts dans le match parce que souvent les matchs de Francfort sont animés. Donc je vois Naples rebondir sur ce match-là.
Et sinon à 19h à la même heure, c'est Slavia Arsenal. Et Arsenal quand même, faut en parler, on en parlera peut-être un peu plus tard. Oui. Mais c'est une des équipes qui me choque le plus en ce moment. C'est pas impressionnant, mais c'est létal. C'est les mecs, en 7 matchs, ils n'ont pas subi un seul tir cadré. C'est un truc de fou.
Bah, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dernièrement, en fait, aussi, être létal aussi. Hein.
Ah, parce
Arsenal, ces dernières années, ça pouvait pousser pendant 90 minutes, à envoyer 30 tirs, 40 tirs, il n'y a rien qui rentre.
Et là,
il y a une différence.
Là, Arteta, il arrive au prime de son équipe. Je pense qu'il voulait que son équipe ressemble à ça. Et là, on y est. Et je ne vois pas comment le titre pourrait l'échapper. Je ne vois pas comment il pourrait pas être un contender très, très important en Ligue des Champions.
On parlait comme ça aussi dans les autres années.
Ils n'ont jamais été tout seuls en tête comme ça.
Deux matchs en retard.
Peut-être pas létal.
Non, mais quand
ils étaient tout seuls, ils ont déjà fait des gros débuts de saison. On les voyait dire ah, mais là, je pense que cette année, c'est la bonne.
Quand je dis tout seul, je parle plutôt de la concurrence. C'est-à-dire que les autres années, t'avais quand même le City qui était au top. Ou Liverpool de club.
T'as oublié City, les remontadas qu'ils ont.
Mais c'était pas le même City, justement.
Ouais, mais là, justement,
ce City-là.
Mais là,
ce City-là, il est faible.
D'accord, avec le retour de Cherki et Haaland.
Ça t'achètera pas une défense, ça t'achètera pas un milieu solide. À l'époque, tu avais Fernandinho, De Bruyne, oui, Gundogan au milieu, c'était pas la même chose.
Il y a des saisons, on voyait Arsenal aller tout droit.
C'était pas Arsenal si fort qu'aujourd'hui.
Cette année, c'est plus l'état, il y a rien à dire. Mais moi, jusqu'au bout, j'attends de voir.
Et on sous-estime beaucoup la saison dernière d'Arsenal. Mais Arsenal.
La sous-estime, même les autres années.
Je trouve qu'on la sous-estime l'année dernière parce que Arsenal, ils se font éliminer contre Paris en demi-finale avec une tonne d'absents. Avant, ils vont gagner 2 matchs sur 2 contre le Real. Et pour moi, en ce moment, c'est la meilleure défense du monde avec Gabriel derrière qui est monstrueux, qui n'était pas là d'ailleurs.
Ça fait plusieurs saisons que Gabriel, déjà, c'est un monstre.
Et pour moi, attention, Arsenal, moi je les vois comme un. Si ce n'est pas le favori, je les vois dans les 2-3.
Mais attention, parce qu'on a pu voir Arsenal qui se sont écroulés avec la perte de Saliba. Est-ce que là aussi, s'il n'y a pas une grosse perte comme ça,
la saison est longue.
Pour toutes les équipes. Si demain le Real perd Mbappé, c'est dur. Si demain le Bayern perd Kane, c'est dur. Si demain City perd Haaland, le meilleur buteur de City c'est Haaland, le deuxième c'est qui? C'est Maxime Estève contre son camp, parce qu'il avait mis un doublé contre son camp. Il n'y a pas un mec de City qui a mis plus d'un but à part Haaland en première ligue. Toutes les équipes sont dépendantes de leurs meilleurs joueurs. Et ça, après, c'est aussi la réussite d'une saison. C'est l'année dernière, si PSG perd Dembélé en 8e, c'est pas la même saison.
C'est pour ça que je dis
Mbappé n'est pas là, c'est pas la même saison.
C'est pour ça que je dis attendons de voir, parce qu'Arsenal, ils sont capables du meilleur comme du pire.
Oui, mais ça, on peut le dire pour toutes les équipes, attendons de voir.
On l'a vu, c'est plusieurs saisons, on l'a vu. On parle d'Arsenal, je parle pas des autres équipes ou quoi, je parle du cas Arsenal. Arsenal, on les a déjà vus faire des débuts fantastiques. Et après, vers février, mars, ça commence à partir en cacahuète.
Mais pour moi, c'est pas comparable. J'attends une maturité que j'avais pas avant.
Oui, c'est vrai, mais j'attends de voir. Chaque année, on disait la même chose. Chaque année, ils progressaient. On disait,
je t'ai jamais dit ici qu'Arsenal serait champion d'Angleterre les autres années.
Pas de problème, messieurs. Vous parlez beaucoup de Première Ligue. On va y arriver à la Première Ligue. Est-ce que, juste avant, vous pouvez me donner vos pronostics concernant le Bayern? Les deux chocs, tout simplement. Bayern, le Paris Saint-Germain face au Bayern et Liverpool face au Real Madrid. Je vous écoute. Théo, c'est parti. Tu te lances.
Allez, 2-1 Paris. Et
t'étais pas confiant pour le Paris Saint-Germain,
On va jouer un peu. Okay. Et en vrai, je vois bien un partout Real-Liverpool.
Ok, Jason?
Pareil, j'allais dire les mêmes résultats.
Les mêmes résultats. 2-1 pour le Paris Saint-Germain et un partout.
Je vois un match nul entre le Real et Liverpool.
Salson?
Je vois un nul Bayern-Paris
Combien?
Partout. Oui. Partout. Et je vois une petite victoire du Real Madrid 2-1.
Je suis d'accord avec Salé, moi. Je vois nul 1 partout PSG Bayern et je vois le Real gagner à Anfield. Mais je vois un match à but. Je vois un 3-1, 4-2, un match avec beaucoup de buts parce que les deux défenses, je les trouve friables en ce moment. Donc je vois mal le Real s'en sortir avec un 2-0 clean. Je vois bien, ouais, je dirais 3-1 Real.
J'aurais partagé cet avis-là, 3-1 Real Madrid, vraiment. Et concernant le Paris Saint-Germain, je ne les donne pas toujours, mais je vais le donner, comme on n'est pas en direct, on sera là demain. Voilà, du coup, je vais le donner. Et le Bayern aussi, face au Paris Saint-Germain, moi, je verrais bien un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain.
Ah oui, quand même. Le Bayern muet au parc.
Qui est muselé.
Ah oui.
Moi, je verrais un petit 2-0. Okay, voilà, c'est... Okay. C'est mon pronostic.
On aura la réponse vite de toute façon.
On aura la réponse très très vite. Merci messieurs. On va aller du côté de la Première Ligue. On va faire une petite pause avant de revenir avec la Première Ligue. La Première Ligue, Liverpool tout simplement, qui ont enchaîné là. Ils ont réussi à avoir cette petite victoire 2-0. Et juste après, on a pu voir Manchester City aussi se relancer. Hein. Manchester City qui se relance assez bien avec le duo Cherki-Haaland. On va en parler bien évidemment. Du coup, on va se faire une petite virgule, enfin une petite pause avant de revenir juste après.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, il est 22h05 si vous venez de nous rejoindre. Nous avons parlé de la Ligue des Champions, nous avons parlé de la Ligue 1 et nous allons parler de la Première Ligue. La Première Ligue, Sunderland et Everton qui font un but partout pour l'instant avec un superbe but d'Iman Diaye, c'est bien ça Maxence ?
C'est ça.
Nous allons parler de Liverpool qui se sont relancés. Liverpool qui ont réussi à s'imposer 2-0 avec un but de Mohamed Salah. Voilà, à souligner aussi, et qui ont réussi à faire leur premier clean sheet aussi de la saison en Première Ligue. Qu'est-ce que t'en penses, Maxence, de tout ça ?
Pour moi, il y a beaucoup de choses à retenir. On parlait tout à l'heure d'équipes qui étaient dépendantes de certains joueurs. Pour moi, City, c'est l'exemple le plus parlant en ce moment en Europe, parce que le niveau d'Haaland est tout simplement exceptionnel, et ça tranche avec le niveau du collectif, qui pour moi ne me rassure pas du tout. Après on a quelques belles surprises en Première Ligue, comme on disait Sunderland, on disait Bournemouth aussi qui fait un beau début de saison. Mais moi, pour revenir à ce que je disais précédemment, je vois vraiment Arsenal et les autres cette année. Je vois plus personne pour les concurrencer, surtout par rapport à la forme. Je vois pas United capable d'aller les chercher sur de la régularité. Liverpool, ça me paraît très compliqué aussi. City également, donc je les vois vraiment seuls au monde. S'ils perdent, c'est face à eux-mêmes.
Merci Maxence.
Je dirais par rapport à Liverpool, déjà, ça va leur faire du bien, surtout à Slot, parce qu'après cette période noire, même très sombre, ça devenait compliqué, même si on ne s'attendait pas à ce que ça parle de lui comme coach sur la liste, en gros, des coachs à sauter. Mais c'était très compliqué ces derniers temps à Liverpool. Et cette victoire-là va pouvoir leur faire du bien. Et il faut aussi noter le coup d'arrêt de Manchester United qui enchaînait les victoires et là était freiné par une équipe de Nottingham Forest qui n'avançait plus. Donc c'est de là qu'on comprend des fois pas très bien ce club de Manchester qui arrive à performer contre Liverpool et qui arrive à perdre des points contre une équipe qui n'arrive pas à gagner un match. Donc, il y a ça à retenir. Aussi, la bonne forme de Haaland et avec le retour de Cherki. Donc, à voir ce que ça va apporter sur la durée. Voir si Cherki arrive à continuer sa saison sans blessure. Et voir Haaland s'il arrivera à performer à ce niveau de forme jusqu'à la fin de saison. Parce que, comme Maxence l'a dit, si Haaland ne performe pas jusqu'au bout, est-ce que City arrivera à s'en sortir ? Donc, telle est la question. Et Arsenal qui continue en maturité. Cette année, ils ont pris encore en maturité, justement. Donc, petit ou pas petit, ils viennent, ils prennent les points pendant que les autres, ils stagnent. Donc, attention, Première Ligue, pas encore écrite, mais Arsenal qui commence à tracer sa petite autoroute. Donc, à voir qui pourra les arrêter et voir si eux-mêmes pourront continuer à performer tout au long de la saison.
Merci, Jason. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Salé, de tout ça? Tu penses ce que tu disais un peu juste avant, Arsenal ne vont pas réussir à aller au bout. Manchester City, qui se sont relancés avec double Cherki et double Daland aussi. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, j'ai pas dit qu'Arsenal n'allait pas aller au bout. J'ai dit qu'il faut aller attendre parce qu'il était capable du meilleur comme du pire. Et de toute façon, là, pour moi, cette saison, c'est... Je suis d'accord, c'est létal, c'est la saison ou jamais. Il me semble, on l'a déjà répété plusieurs saisons quand même. Ça fait 2-3 ans qu'on le répète. Mais je pense que Arsenal, s'ils ratent le titre cette année, c'est eux le problème. C'est, de toute façon, les autres années, c'était eux à chaque fois. Donc je pense que c'est eux leur propre problème. Donc c'est à eux de. J'attends de voir. En arrivant déjà au Scope Banksy Day, voir comment ils vont le gérer, etc. Et pour ce qui est de City. Je suis content parce que moi, Cherki, c'est un joueur que j'apprécie depuis ses premiers pas à l'Olympique Lyonnais. Depuis sa première prise de balle, j'ai compris que ce joueur-là, c'était un monstre. Et là, je trouve que là, il a fait une petite préparation. Là. On dirait qu'il a fait une autre préparation. Il a perdu pas mal de kilos. Il est plus affûté. Et il va enchaîner les minutes. Et là, en cup, je crois qu'il a été décisif aussi. L'air, il a été décisif. On a bien vu avec Haaland qu'il y avait une bonne connexion. Ça parle le même football. Et franchement, le City, là, qui revient, on peut espérer. Mais après, je suis d'accord avec Jason et Maxence sur le fait que là, City va être dépendant de Haaland. Il va être dépendant d'Haaland. Parce que si demain, Haaland ne performe plus, il n'y a personne pour le compenser. Et en plus, il l'a dit tout à l'heure aussi, Maxence, c'est que le meilleur buteur, c'est Haaland, mais le deuxième meilleur buteur, c'est un mec qui met des buts contre son camp. Donc c'est vraiment très, très grave. Ça veut dire que les ailiers, ils peuvent pas compenser si demain, Haaland n'est pas performant. Et ça, c'est un problème qu'il faudra régler pour espérer aller chercher Arsenal, qui pour l'instant a pris l'autoroute. Et voilà, on va voir ce que ça va donner d'ici là.
Et je tiens à souligner aussi le banger de Marmouche. Il a mis un très beau but. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ouais,
vous n'avez pas vu la frappe de loin qu'il a mis en pleine lucarne.
Ah, contre Swansea
C'est Swansea ou...
C'est Swansea.
J'ai vu le but d'Amad Diallo qui était pas mal contre Nottingham Forest.
Bien sûr, on va parler de Manchester United aussi. Manchester United qui, après 3 victoires de suite, ont fait match nul à Nottingham Forest. 2 buts partout.
Ils sont fait titiller.
Qu'est-ce que t'en penses, Théo?
Bon, ils retombent. Manchester United retombe un peu dans ses travers, quoi. Ils étaient mieux, hein. Ils étaient bien mieux ces derniers temps. Et c'est surtout dommage, en fait, de perdre des points. Ça a été dit un petit peu autour de la table, de perdre des points contre des petits, en fait, surtout, qui, eux, n'arrivent pas à avancer. Enfin, Forest, c'était cataclysmique et ils arrivent quand même à titiller et à récupérer un point face à United. C'est quand même vraiment dommage quand tu te remets en. Tu remets un petit peu ta tête à l'endroit après une période très, très, très compliquée. Où tu voyais pas le jour, tu t'aperçois enfin un peu le soleil et là tu replonges toi-même bêtement. Ils n'ont pas perdu, hein, mais c'est quand même bête de perdre cette série de victoires, surtout contre Forest. Et on pense au gars qui va pas se raser les cheveux encore là.
Ouais. Ah, lui,
il est mort, lui.
Ça va être compliqué en tout cas pour lui. Mais Nottingham Forest aussi, qui se relance, hein, mine de rien, parce qu'il y a eu un changement de coach. Nottingham Forest aussi qui se relance. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu aussi un peu Nottingham Forest. On a pu voir de meilleures choses de leur côté. Jason, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Se relance, c'est un grand mot, parce qu'on se relance pas avec un match nul.
Bien évidemment, mais quand je dis se relancer, c'est. Voilà, on était sur quand même 4 défaites en première ligue. Ouais. Quoi. C'est pour ça que je dis.
Ils ont bien titillé United quand même.
Après,
malgré qu'ils prennent le premier but, hein, ils ont pas mal, pas mal titillé.
Mais le problème, c'est de prendre des points urgents parce que, comme on sait très bien, la première ligue, c'est difficile d'aller chercher des points. Quel match, peu importe l'adversaire, que ce soit un adversaire qui joue la tête du championnat ou qui joue la relégation. Donc, Nottingham, ils ont intérêt quand même de se réveiller parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils jouent deux compétitions. ils jouent aussi la Coupe d'Europe et ouais. ça risque aussi de faire en sorte qu'ils y laissent des plumes. Donc est-ce qu'ils vont faire le choix de faire une Chelsea, de mettre une équipe B en Coupe d'Europe alors que ça fait des années qu'ils l'ont pas joué, ou ils vont faire le choix de la jouer à fond et de le risque de perdre des points en, ouais, mais en championnat.
Tu fais ça quand t'as l'effectif de Chelsea.
Oui, mais
ils n'ont pas l'effectif de Chelsea. Donc je pense qu'ils, même est-ce que l'Europe, si ils voient que au classement ils sont pas bons en championnat, ils vont plus se miser sur le championnat
pour pas. Je l'espère.
Pour pas.
Parce que pour l'instant relégué. En Europe ils mettent l'équipe du championnat. Donc
Ils essaient de jouer tous les tableaux, mais au bout d'un moment ils pourront pas s'aligner. Quand tu verras que tu es dans la zone rouge.
Après ils ont aussi une marge en Europa League par rapport à pas mal d'adversaires. Le fait de jouer en PL, à mon avis la priorité reste à la PL. Et là sur toute la phase de ligue. Leurs adversaires, ils ont battu Porto d'ailleurs qui était leur plus gros adversaire de la poule, mais ensuite il y a quand même des équipes assez moyennes en
après ça veut rien dire. Regarde même c'est quelle équipe qui est tombée contre une équipe hollandaise à, elle a un nom de D2.
Oui, Go Ahead Eagles.
Ouais, je sais pas quoi.
Non, mais bien sûr, mais je veux dire,
c'est une équipe anglaise.
Le format permet de lâcher deux ou trois matchs et de passer quand même. Je pense qu'ils commenceront, la plupart du temps, les équipes anglaises commencent à jouer l'Europa League quand c'est l'écart, quoi, huitième ou quart. Leur priorité, ça va être surtout de se maintenir.
Ouais, mais s'ils se qualifient, c'est pourquoi
faire.
Ça va
prendre des plumes encore.
Ouais, c'est pourquoi faire.
Mais leur priorité, c'est 200% la première ligue, vu l'argent.
La première ligue, tu vois, ouais, voilà. C'est pourquoi se casser la tête. Si tu veux te concentrer sur la Ligue Europa pour finir à te battre pour rester en première ligue, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens, c'est bien ce qu'on pense aussi.
Voilà, c'était Aston Villa qui a perdu contre Go Eagles.
Ah oui.
Ouais. Aston Villa qui ont perdu face à Liverpool, 2-0. Mohamed Salah, buteur.
Ça va lui
c'est
faire
pas trop tôt.
Bien, hein.
Il était temps quand même.
Ouais, mais il y a un contexte aussi. Moi, je ne veux pas être dur avec Liverpool parce que.
On parlait de Salah, pas de.
Bah, il avait marqué contre Brentford.
Mais au-delà des buts, c'est plus les prestations moi, qui me.
Oui, mais les prestations.
Salah, il n'y a pas un bon choix.
Ouais, mais je parle de Liverpool, même en général. Parce qu'il y a eu la mort de
Jota, il faut pas.
C'est pas minimisé. C'est pas. Je pense que ça a mis un coup de choc aussi au VGR. C'est dur de
savoir. D'ailleurs, Van Dijk en avait parlé. Ça l'avait pris un peu pour une excuse, parce qu'il en avait parlé après la première défaite, etc. Non, mais je veux dire, pas moi, mais
oui,
ça a été critiqué.
Je sais pas toi.
Mais... En disant, ah ouais, il sort la carte Jota après.
Les gars.
Mais Jota, en fait, je pense que c'est quand même beaucoup plus profond que ça. C'est un mec qui était au club depuis 3-4 ans.
Ceux qui étaient appréciés.
Qui étaient appréciés.
Qui étaient amis avec tout le monde. En plus, c'est un fait marquant dans le sens où. C'est un gars avec qui tu jouais, tu t'entraînes tous les jours, tu le voyais tous les jours, tu le croyais tous les jours, il était apprécié de tout le monde. Et c'est un joueur qui est décédé. Ça veut dire que ça pouvait être n'importe qui d'autre du vestiaire. Et
non,
je pense
c'est
que c'est un peu choquant, ça reste choquant. Après, ils vont dire, mais c'est bon, hein, mais tu peux pas comprendre. C'est... Voilà, je pense que
il était à Liverpool depuis 2020, hein, ça faisait.
Salah était très touché.
Ouais, aussi. On a pu le voir en larmes après la première victoire, à rester encore quand ça ovationne.
En plus, il prend de l'âge.
C'était le super sub, Diego Rota. Hein. Quand il est rentré, il faisait la différence. Il était là pour ça, sans poser plus de questions, sans poser de problèmes aussi. C'était ce super sub un peu que tout le monde appréciait. Il était là et déjà depuis 5 ans.
En plus, il y a la CAN qui arrive aussi.
Mmh. Oui.
Après, avec l'Égypte, il performe.
Oui,
ouais, mais il l'a jamais gagné.
Ouais, mais je me dis, est-ce qu'il n'est pas en train de se réserver par rapport à ça, peut-être aussi. Il y a Jota, il prend de l'âge.
Puis cette dernière option de la carrière, il a pris la première ligue, il a pris avec des champions.
Ce sera l'une des dernières.
Juste un titre avec sa sélection.
Ce sera peut-être l'une des dernières cannes qu'il va faire. Est-ce qu'il n'est pas en train de se. Voilà,
non, c'est vrai, ça serait compréhensible aussi. Voilà.
Alexander Isak qui est arrivé, qui est blessé d'ailleurs, qui ne sera pas. Face au Real Madrid. Est-ce que ça n'est pas une bonne nouvelle finalement? Parce qu'on a pu voir, ils se sont passés de lui ce week-end, ils se sont imposés 2-0 avec Etiquité en pointe. Il est revenu sur ses bases.
Actuellement, Etiquité est meilleur
sur le banc. Wirt sur le banc, Etiquité en pointe, Szoboszlai, McAllister, Gakpo à gauche et à droite.
Je crois qu'ils ont zéro défaite avec Etiquité en titulaire. Ils ont zéro défaite.
Ça ne m'étonnerait pas.
Et là, il fait un gros début de saison.
Ouais.
Après, voilà, Isaac, il vient parce que c'est un gros transfert.
Oui,
mais quand on parlait d'Abid Bey qui est obligé de mettre ses coups au Fofana,
imaginez maintenant,
Liverpool, c'est x10 le prix, l'investissement.
C'est
les mecs, ils veulent le voir sur le terrain.
C'est le même cas qu'Abid Bey. Donc, c'est des gars, on peut pas vraiment les.
On leur impose, je sais pas s'il a été, il était d'accord pour le transfert ou pas, mais on leur met des joueurs à forte valeur.
Après, je pense que pour Isaac, tu es d'accord.
Non, tu es d'accord, oui.
Parce qu'à la base, il ne voulait pas équitiquer, il voulait Isaac. C'est parce que le transfert de Isaac, il a pris plus de temps que prévu.
Mais après, pendant ce temps-là, Isaac ne s'est pas entraîné, étiqueté, il performe. C'est compliqué de.
Mais pour ça que la petite blessure, c'est peut-être pas plus mal pour lui. Si ça peut lui permettre de refaire une préparation. Parce qu'il ne s'est pas entraîné, en fait. Il n'a pas fait de prépa. Il faisait la grève à Newcastle. Il était à San Sebastian. En s'entraînant avec un peu son agent, etc. Ouais, mais c'était sérieux, à l'arrache. Il était plus à la plage qu'autre chose, je pense. Et il négociait pour partir.
En plus, la prépa, c'est l'une des plus, les périodes les plus importantes de la saison. C'est parce que quand tu fais une bonne prépa, tu fais une bonne saison. Quand tu rates ta prépa, derrière, c'est compliqué de performer. Et surtout de revenir au top de sa forme.
Et surtout même pour l'animation offensive, pour la connexion avec les voilà. coéquipiers.
Et en plus, lui, il arrive dans une équipe, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu la mort de Jota, il y a eu une reconstruction, il y a eu des nouveaux joueurs, il y a un cycle en train de se reformer, etc. Donc c'est un peu compliqué.
Ça a du poids d'arriver dans un vestiaire comme ça avec un aussi gros transfert. Ouais. Hein.
Ah oui,
voilà, il vient en tête de gondole.
C'est ça quoi.
Avec un œuf qui plante déjà sans toi.
Sans toi. Et en plus,
okay, ça marche bien sans toi. Et dès que tu rentres, c'est un peu dysfonctionnel.
C'est un contexte.
Même pour Wirtz, hein, c'est pareil. On voit très bien le manque criant de confiance. Hein, c'est l'ombre de lui-même sur le terrain. Quoi.
Même la confiance, ça joue sur la confiance aussi. Surtout en attaquant.
C'est dur d'arriver dans un club avec un gros transfert et surtout un club tenant du titre en première ligue.
En
quoi.
Plus.
Voilà,
en
qui
plus.
Sont là et qui, ont, et qui, l'année dernière, n'ont pas fait une mauvaise saison. Hein. Vraiment, on a pu voir que tout s'est écroulé à partir du moment où ils sont sortis face au Paris Saint-Germain. Mais voilà, ils sont quand même champions assez aisément.
Ils perdent tir au but, donc ils ne se font pas, ils se font pas non plus marcher dessus. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est un peu moins patient aussi qu'avant sur les joueurs.
Ouais,
et
c'est ça.
On est aussi. On est aussi responsable de ça, mais sur l'adaptation, Wirtz, il a 20 ans, le mec, il change de pays, il change de type de football, il change de ligue, il change de coéquipier.
C'est ce que Xabi Alonso disait là, en conférence de presse, qu'il a toujours vécu en Allemagne. Là, il arrive, il change du tout au tout. Du coup,
peut-être que Wirtz, il atteindra son top niveau l'année prochaine.
Guikorez, là, il commence à enchaîner les 3 matchs, 3 buts.
Guikorez, c'est mieux.
On était fort avec lui, on n'a pas attendu. Le mec, il sort du Portugal, il va en première ligue. T'arrives à Arsenal, voilà, la machine a commencé à...
Arsenal qui sont imposés face à Burnley, 2-0, Arsenal qui enchaîne.
Parce qu'il marque en plus là.
Regarde, Voltema 2, même lui, il a ramené tous ses potes avec lui pour rester dans une certaine zone où l'Allemagne reste proche de lui. Ouais. Parce qu'il a besoin de ça, parce que
ses amis,
si, voilà, exactement.
Et on voit qu'il performe.
Exactement.
Avec truc. Ça compte aussi l'environnement. Chelsea qui sont imposés face à Tottenham 1-0. West Ham qui se relance face à Newcastle, hein, comme on le disait aussi. Newcastle qui sont un peu dans le dur, un peu en ces débuts de saison. Bon, pas plus que West Ham, mais West Ham là ont pu se relancer avec ce petit 3-1. Crystal Palace qui se sont imposés 2-0 face à Brentford. Fulham qui ont collé 3-0 face aux Wolves. Qu'est-ce que vous en pensez de ces matchs-là très rapidement, très rapidement.
Crystal Palace, franchement, ça reste sur la continuité. Hein. Franchement, une très belle équipe avec leur coach allemand. Mateta, toujours bon. Il veut aller à la Coupe du Monde, je crois.
Apparemment, ouais.
Parce que là, il est déterminé.
Un très, très bon match.
Ouais. Mateta, il est en pétard. Franchement, cette équipe-là, elle cesse de m'étonner.
Merci, Jason. Le classement de la Première Ligue. Arsenal, premier avec 25 points, à 6 points d'avance sur Manchester City, deuxième avec 19 points. Liverpool, troisième avec 18 points, à égalité avec Sunderland. Pour l'instant, Sunderland qui sont en train de faire match nul face à Everton, un but partout. Bournemouth, cinquième avec 18 points. Tottenham, sixième avec 17 points, à égalité avec Chelsea. Et Manchester United. Dans le bas de tableau, les Wolves ont 2 petits points seulement. Nottingham Forest, 6 points. Derrière West Ham, qui en ont 7 aussi. Et juste devant, c'est Burnley avec 10 points. Voilà pour la Première Ligue. On va basculer du côté... de la Liga, tout simplement, de l'Espagne. Le Real Madrid qui n'en finit pas. Le Real Madrid qui s'impose encore grâce à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'un but et d'un penalty laissé pour Vinicius, que Vinicius a loupé aussi. On y reviendra, il faudrait que vous nous donniez votre avis là-dessus. On y revient juste après. On va se faire une petite virgule avant d'y revenir. Ah. De retour dans les locaux de Montparis FM. Du coup, on va parler de la Liga. La Liga, le Real Madrid en tant que leader se sont imposés 4-0. Hein. Barcelone se sont imposés face à Elche 3-1. Betis Séville avec un Anthony en feu. Hein. Anthony qui a mis un doublé plus une passe décisive en 37 minutes avec le Betis face à Mallorca. L'Atlético de Madrid qui se sont imposés 3-0. Villarreal 4-0 face au Rayo Vallecano. Quelles sont tout simplement vos impressions sur ces journées?
Bah le Real, comme tu as dit, qui est porté par un Mbappé, et puis plus globalement qui est en maîtrise sur ces matchs-là de Liga, et c'est la principale différence avec l'an dernier, parce qu'il les gagnait ces matchs-là à la même période, mais c'était beaucoup plus laborieux. C'était pas dans le jeu, on voyait pas autant de maîtrise. Là, même défensivement, ils arrivent à avoir une assise qu'ils n'avaient pas auparavant. Et oui, on en parlait un petit peu avant que l'émission démarre, mais Mbappé est en feu. Il se permet même de laisser des pénaltys assez régulièrement à Vinicius pour le remettre en confiance. Par contre, il faut qu'il arrête les pénaux, Vini, ça serait bien quand même pour...
Je pense qu'on est d'accord sur le fait de dire que Kylian Mbappé doit prendre les pénaltys et ne plus le laisser, du moins à Bellingham peut-être, parce qu'on a vu que Bellingham
aussi tirait bien les pénaltys. Non, mais il laisse pour faire plaisir, mais en vrai, il faut qu'il les prenne, qu'il aille chercher son pichichi et son soulier d'or, et puis qu'il pense à sa gueule.
Parce que de l'autre côté, ça avance, hein. Erling Haaland, Harry Kane, ça avance.
Ils envoient, bien sûr, Kane Haaland, et il laisse pas grand-chose. Après, voilà, je comprends, il en met un, il a envie que ses coéquipiers soient aussi en confiance, etc. Mais en plus, Vinicius, on voit que c'est pas son exercice, il est pas bon là-dedans. Donc voilà, ça fait plusieurs qui ratent quand même dans des moments pas importants, mais quand il a l'occasion d'en tirer un. Et sinon, au contraire, le Barça, je le disais un peu tout à l'heure, mais j'ai pas du tout été impressionné par la prestation. C'est une victoire quand même assez facile parce que Elche, c'est bien en dessous. Mais la Liga, ça peut vite bouger. L'année dernière, on l'a vu que le Real était d'abord devant, le Barça ensuite. Finalement, c'est le Barça qui a terminé devant. Il y avait parfois 9 points d'écart. Là, il n'y en a que 5. Mais dans les prestations, j'en vois plus que 5 en différence. Il n'y a que 5 points, mais moi, dans la prestation, je vois beaucoup plus d'écart entre ces deux équipes-là. Après, encore une fois, on l'a dit, hein, ça peut bouger. Et puis, il y a des faits de saison qui peuvent faire évoluer tout ça, avec notamment des blessures qui peuvent revenir côté Barça et des blessés qui pourraient arriver aussi côté Real. C'est quelque chose duquel on n'est pas à l'abri. Mais en tout cas, actuellement, le Real est beaucoup, beaucoup plus impressionnant que ce Barça-là.
Merci, Maxence.
Après, moi, je dirais au niveau du Barça, faut pas trop être trop exigeant non plus avec eux parce qu'ils ont quand même beaucoup de blessés. Donc, du moment qu'ils prennent les points, malgré que les prestations soient un peu ternes, mais l'essentiel, c'est de rester le plus au coude à coude du Real en attendant les retours de leurs joueurs phares. Donc, limiter la casse parce qu'ils enchaînent les matchs encore là après avec la Ligue des Champions. Donc et le Real qui continue son rythme de croisière, hein, qui bat un peu tous ses adversaires. Donc là, on se demande déjà qui va pouvoir les arrêter en championnat, même malgré leur défaite qu'ils ont eue face à l'Atlético. Le Real commence à être un peu en pilote automatique, avec un Mbappé en chef de navire. Et après l'Atlético, qui commence à se refaire une petite santé, qui commence un peu à regagner avec un Alvarez en forme. Donc,
de son tième but de Grisou aussi.
Ouais, Grisou aussi, qui montre qu'il n'est pas fini. Toujours présent. Mais la Liga va rester, je pense, passionnante jusqu'au bout.
Merci, Jason.
Lucas. C'est vrai que c'était un match très important pour l'Atlético, mine de rien, pour rester dans la course au titre déjà. Hein. Et ce 3-0, il est plein de certitudes et... ça va leur permettre de rebondir un petit peu, parce que c'était un petit peu délicat tout de même le début de saison. Et vraiment, Alvarez est impressionnant, le poids qu'il a sur les défenses et son efficacité. Franchement, c'est assez bluffant. Et en parallèle, donc, le Real et le Barça se tirent un petit peu la bourre devant. Et ça a été très bien dit par Maxence, le Real est pour moi au-dessus en termes de niveau de jeu surtout. Parce que le Barça, ils ont trop de mal avec tous leurs blessés... ça tourne mal au milieu, c'est compliqué. Quand il n'y a pas Pedri, on voit qu'il n'y a rien du tout au milieu. Olmo, c'est l'ombre de lui-même. Ils attendent désespérément le retour de Rafinha parce que de l'autre côté, Yamal, là, il traîne sa pubalgie depuis des semaines. Et sincèrement, je ne comprends pas pourquoi il continue de le faire jouer autant. Il joue tous les matchs.
C'est n'importe quoi.
Au Classico, il n'a pas accéléré une fois. On le voyait, dès qu'il s'arrêtait, il se touchait, il avait mal.
Mais déjà, même contre Paris, la semaine d'avant,
il pouvait rien faire.
Il est main sur les genoux à la 30e. Et déjà, l'année dernière, Hansi Flick l'utilisait mal parce qu'il l'utilisait beaucoup trop. Sur des matchs où il y avait 4-0 mi-temps, il jouait 90 minutes. Le mec, il était pas majeur, son corps, il n'est pas fini d'être formé, etc. C'est comme ça que tu crées des mecs en carton après, il ne peut pas tenir. Et là, la meilleure solution sur une saison comme ça, qui va durer 10 mois ou 11 mois, ce serait de le faire opérer maintenant. Jusqu'à janvier-février, il revient en février pour faire fin de Ligue des Champions, Coupe du Monde.
Ouais,
et c'est ce qu'il
quoi.
Faut faire, peu importe là, si tu perds la Ligue. Là, t'es en train de le tuer. Et
face à
Elche,
je suis pas sûr que ce soit pertinent de le mettre. Même face au Real, franchement.
Mais là, t'es en train de le tuer, ce mec-là.
Ça fait une limite de la peine parce qu'il a le ballon à droite, alors que la saison dernière, c'était le catalyseur, il faisait tout. Là, il est incapable de faire la différence. Quoi.
Et tu sens qu'il n'ose pas frapper, il n'ose pas accélérer parce qu'il a peur d'avoir mal.
Exactement.
Ils ont quoi comme option à part?
Mais on s'en fout, peu importe. Mais t'as un mec comme ça dans son équipe, tu peux pas le casser.
C'est un joyau.
Rooney Bardi qui est pas mal, qui peut faire l'affaire en Liga.
Ouais, mais je te dis, là, comme t'as dit, pour moi, ils attendent les retours de au moins des Rafinha, etc. Mais c'est trop risqué. Même Yamal, même son hygiène de vie, au-delà même de tout ça, son hygiène de vie est déjà catastrophique.
Non, ça, on n'en sait rien de son hygiène de vie.
Il a beaucoup d'affaires un peu extra-sportives.
Ah, extra-sportives, oui, mais
c'est ça le truc.
Au niveau hygiène de vie, tous ses coachs disent qu'il s'entraîne très bien, qu'il fait les séances en plus, etc.
Ouais,
et l'hygiène de vie, ça ne paye pas à 18 ans. Ce n'est pas à 18 ans que tu vas voir que le mec se blesse à cause d'hygiène de vie. Ça, c'est plus tard.
Oui,
c'est après.
Mais
l'extra-sportif, si.
Parce que de
ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais tu as plus le Belgique.
Elle n'est pas venue au hasard.
Oui, mais la plus Belgique, ça arrive à plein de joueurs. Ça arrive à Zlatan, ça arrive à Cristiano. Ça arrive à
aussitôt. Et en plus, dans des enchaînements
mais surtout, plus à Bubalji, elle est venue à un moment précis. Donc après, on n'a pas besoin d'évoquer les contextes.
Non, je n'ai pas invité.
Mais elle est venue à un moment précis.
Je
ne
suis pas en train d'excuser, enfin, lui trouver des excuses ou quoi. Mais voilà, c'est un joueur. Est-ce qu'il fait attention à son corps? Est-ce que déjà le Barça ne l'aide pas aussi?
Ouais, non,
avec sa famille non plus.
Sa famille ne l'aide pas non plus.
C'est pas normal.
Ça veut dire, au bout d'un moment, le gars, il va continuer comme ça. Quand le Real, il était catastrophique. En plus, il a parlé, donc tu parles. Faut assumer sur le terrain, il s'est fait bouffer. Contre le Paris Saint-Germain, il a joué quoi, 10 minutes, 15 minutes, il nous a fait la folie,
Mais ça, il l'a fait à quel moment du match?
À
la 3ème minute, parce qu'au bout de 10, il est déjà KO.
C'est pour ça
que je
dis qu'il a pendant 10 minutes, il a été bon, après, salut.
Excusez-moi, on s'éloigne un peu du sujet, on va recentrer le débat. Villarreal qui sont imposés 4-0 face au Rayo Vallecano. Villarreal qui font un début de saison canon, on peut dire ça comme ça. Atlético de Madrid qui sont imposés face au FC Séville, 3-0 aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces matchs?
Villarreal, j'aime beaucoup cette équipe qui a bien fonctionné avec aux premières loges, on va dire, de Gérard Moreno qui a mis un super but pour ouvrir le score. Et Miko Tadze, Nicolas Pepe, des joueurs qu'on apprécie. Moi, Villarreal, oui, ils sont bien positionnés dans le top 4. Il me semble qu'ils sont 3 ou 4.
Ça fait deux saisons.
Ils sont bien
ça
à cette place-là. Je pense que ça rejouera la Ligue des Champions l'année prochaine.
Depuis l'année dernière, c'est
un contender intéressant. Voilà, après, on sait que la lutte pour le titre, elle se fera à deux. Hein, ça sera à deux, voire à un. Mais il n'y aura que deux équipes qui peuvent prétendre au titre depuis septembre. Donc Villarreal n'en fait pas partie, mais c'est une très belle équipe à suivre en tout cas, et en se posant devant leur match le week-end, on est sûr de ne pas perdre notre heure et demie.
Merci Maxence. Les autres, non, rien à ajouter.
Totalement d'accord.
Ouais. Ok, on va poursuivre le classement de la Liga, le Real Madrid avec 30 points premier, Barcelone deuxième avec 25 points, Villarreal troisième avec 23 points, Atlético de Madrid de 4e avec 22 points. De la 4e à la 2e place, ça se joue en 3 points. Et le Real qui ont un peu distancé le Barça de 5 points. Juste derrière, dans le bas de tableau, on a Oviedo, qui sont 19e et qui sont en train de jouer face à Osasuna 0-0. Valence 18e avec 9 points à égalité avec Mallorca et Levante. Oh oui. Et on a Gérone aussi avec 7 points qui sont 20e. Gérone qui était en Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps.
On
et
est
là,
loin
on,
du on... Valence de Dove Villa.
Oui, on est loin aussi de Gérone aussi, de Gérone du Dove Beek. On est loin aussi de tout ça. On va enchaîner avec la Première Ligue. On va enchaîner avec la Serie A. On a pu avoir le duo entre les deux, Rome.
Milan-Roma.
Milan-Roma. AC Milan qui se sont imposés 1-0 avec un penalty raté de Paolo Dybala.
Et arrêté par Mike Maignan.
Et arrêté par Mike Maignan surtout.
Il s'est blessé en plus,
Dybala, non oui. Qui fait une rechute aussi. On y revient dans quelques instants. Juste après la virgule. C'est reparti, on va parler de la Serie A. La Lazio qui sont en train de s'imposer 1-0 face à Cagliari. Pour l'instant, la Lazio qui font des débuts de saison aussi assez compliqués. Hein. Bon, ils sont 7e, c'est un peu compliqué, mais ça va. AC Milan qui sont imposés 1-0 face à l'AS Rome. La Fiorentina qui sont complètement perdus en ces débuts de saison et qui ont perdu à domicile face à Lecce. Inter qui ont arraché au bout du bout la victoire face à Hellas Vérone 2-1. Juventus qui sont imposés face à Cremonese 2-1 avec les débuts réussis de Spalletti. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Naples qui ont fait match nul contre Como. Qu'est-ce que vous en avez pensé aussi Spalletti hein, qui avait dit qu'il s'était tatoué la Sudetto de Naples et qui avait dit qu'il n'allait plus jamais entraîner de club en Serie A et maintenant qui entraîne la Juve. Qu'est-ce que vous
décidément, les Italiens là-dessus. Sarri avait fait le même coup déjà à l'époque, quand il était à Naples, en critiquant la Juve, en critiquant tout le fonctionnement du foot italien, etc. Pour au final partir à la Juve un an après, dès qu'il a eu l'occasion, et pour gratter une petite Serie A qu'il n'avait pas dans son palmarès. Donc ouais, après, la culture italienne est différente de celle des Français, des Espagnols notamment sur ces sujets-là. Les Italiens, même les grands joueurs italiens, n'ont aucun problème à passer d'un grand club à un autre. Ils l'ont tous fait, enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait. Un mec comme Pirlo, par exemple, est respecté partout, alors qu'il a joué dans tous les grands clubs italiens. Ronaldo, brésilien, pareil, Zlatan. En son temps. Zlatan, pareil. Alors que les mecs sont considérés comme des légendes de plusieurs clubs. Ce qu'on pourrait pas voir en France, un mec qui est une légende du PSG et de l'OM à la fois, j'en ai pas en tête forcément. Barça, Real en même temps, j'en ai pas en tête non plus.
Ok, mais d'accord, au PSG. Non, il n'y en a aucun.
Donc voilà. Et après, au-delà de ça, la Serie A, je trouve que c'est le championnat le plus disputé en Europe actuellement et un des plus intéressants parce qu'il n'y a pas de super team qui domine. Il n'y a pas le Bayern, il n'y a pas même Arsenal, le Real qui sont au-dessus et qui font pas d'erreurs. Ils font tous des erreurs. Un peu comme en Ligue 1 dans une moindre mesure, mais ils perdent tous des points. Du coup, ça permet de relancer à chaque fois les journées. Enfin, d'une journée à l'autre, on change de leader, on change de podium. Naples qui est en tête, mais un point devant l'Inter. Il y a Inter qui est égalité avec le Milan, avec la Roma, je crois. Il y a du monde en tout cas. Et ça rend le championnat intéressant et les matchs comme hier soir avec une vraie valeur. Et donc, voilà, souligner la perf de Maignan qui fait gagner 2 points à son équipe hier soir. Deux points de plus à son équipe, t'as raison, hier soir, qui pourront compter sur la fin de championnat peut-être. Après, je vois quand même l'Inter un peu meilleur, potentiellement.
Je vois pas Naples faire un back-to-back
et je vois l'Inter paradoxalement un peu moins bon en Ligue des Champions, donc faire moins long feu en Ligue des Champions.
Même en Serie A c'était compliqué, même là contre l'AS Vérone
Match il est horrible ce week-end encore, mais je les vois leur effectif un peu plus dense pour mettre le coup de collier au printemps quand faudra y aller, avec le retour de Thuram, avec une défense qui est quand même assez sûre. Lautaro qui a démarré sa saison tranquillement mais qui est pas encore au max de ses capacités. C'est une équipe qui a fait la Coupe du Monde des clubs aussi, on en parle beaucoup pour PSG, mais cette équipe de l'Inter qui a fait toute la saison dernière, finale avec des champions, Coupe du Monde des clubs aussi, donc je pense qu'ils ont un petit retard à l'allumage et que ça va repartir
Ils ont pas fait long feu en Coupe du Monde des clubs.
Ils ont pas retard, ils ont un problème mental parce qu'ils ont tout perdu.
Aussi, il faut s'en remettre, bien sûr.
Il y a un petit coup.
Mais oui, comme tu dis.
Et surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont voulu partir cette année qui ne sont pas partis.
Changement de coach, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et comme tu as dit aussi, ils avaient tout joué jusqu'à la fin. Coupe d'Italie, Serie A jusqu'à la dernière journée.
Ils sont perdus surtout.
Exactement. Donc, déjà très dur de faire les efforts et en plus quand ça sourit pas pour toi, deux fois plus dur.
Merci Maxence, quelque chose à ajouter?
Non, tout a été dit. C'est quand tu vois l'état mental d'un Martinez à la fin de la saison dernière, tu te demandes comment il va rebondir, quoi. C'est évidemment compliqué hein.
En tout cas, c'est après ce qui est bien sur la Serie A, c'est que cette année ça va se bagarrer. Et là, on retrouve les gros clubs. La Juve, bon, ils sont un peu décrochés, mais ils restent assez proches parce qu'ils ont 18 points.
L'Inter,
la Roma, fait plaisir parce que même la Roma, c'était une équipe qui était toujours dans les 7e, 6e. Donc là, c'est réellement le choix de la Serie A qui est vraiment réanimer. Mais après, je pense que les équipes italiennes cette année, pour l'Europe, c'est en dessous.
Oui.
Mais dans le championnat, ils se valent un peu mais tous.
Il faudra parler un jour de ce championnat qui, il y a une quinzaine d'années, nous faisait tous rêver.
C'est ça.
Et après, il y a eu un trou, il y a eu un fossé. Et après, à un moment, c'est reparti. Et là,
avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo notamment.
Ouais, c'était reparti. Quand il est arrivé, t'avais le Milan AC, l'Inter là, qui commence à bien se titiller.
Non, et puis le duel Naples-Juve aussi qui était sympa à l'époque.
Ouais, même
avec la Juve qui gagnait tout, mais Naples.
Mais même t'avais la Juve qui voilà.
Oui, la Juve gagnait tout, mais Naples aussi, on voulait les voir gagner, ça faisait longtemps, mais ils n'y arrivaient pas. Je me rappelle de gros match avec Koulibaly qui prend un rouge sur une des dernières journées. Naples-Juve, si Naples gagne, ils sont champions, ils le font pas. C'était quand même, il y avait un petit mano à mano.
T'avais quoi regarder, se mettre sous la dent, mais après, il y a eu, comme j'ai dit, il y a eu un fossé, après, c'est reparti de travers, et là, c'est en train de repartir
parce
un peu.
Parce qu'après, le problème en Italie, c'est que quand une équipe est leader, eh ben, elle met une tempête à tout le monde.
Ouais,
et
bah,
souvent, les années, c'est comme ça, c'est soit l'Inter, ils sont premiers, ils ont beaucoup de points d'avance, soit Naples, ils étaient premiers, ils avaient beaucoup de points d'avance, soit la Juve était premier.
Là, cette année,
c'est tout le monde au coup d'un coup.
Après, on n'est qu'à la 10e journée, hein. Je pense que ça va se décanter avec le temps, surtout ceux qui jouent sur
après,
les doubles tableaux.
Après, ils arrivent toujours à se battre entre eux, parce que regarde, ouais, la Juve a battu l'Inter, Naples a battu l'Inter, après, là, l'Inter a battu la Roma, le Milan, pardon, ils ont battu la Roma, donc après, c'est... Tout le monde se prend des points et tout le monde reste au coude à coude.
C'est ça. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Naples, premier avec 22 points. Inter, deuxième avec 21 points à égalité avec l'AC Milan et l'AS Rome. Hein. 21.
Il y a un bon début de saison
place.
De Fabregas avec Como. Hein.
Ouais, aussi. Como qui sont à peine septième. Hein. Como qui sont derrière, à un point derrière Bologne et la Juventus qui sont cinquième et sixième respectivement.
Et petite dédicace à Vardy.
Qui
plante. Hein.
C'est vrai qu'il
y a ces deux derniers week-ends, je crois qu'il met deux buts. Là. Je ne dis pas de conneries. Mmh. Mais il y a Verdi, monsieur Red Bull qui est encore là malgré ses 38 ans. Et ça fait plaisir de le voir encore épanoui sur les terrains de football. Il nous a fait tellement rêver à l'époque de Leicester.
Lazio qui sont en train de s'imposer 2-0. Il reste quelques secondes dans ce match-là. Hein. On pense que les carottes sont cuites pour Cagliari. Voilà pour la Serie A. On va partir du côté de la Bundesliga. Hein. La Bundesliga, on va se faire juste une toute petite virgule avant de revenir avec la Bundesliga. La Bundesliga, le Bayern Munich qui roule comme d'habitude, qui ont fait tourner, mais qui se sont quand même imposés face au Bayer Leverkusen. 3-0 à la mi-temps, ça a été déjà plié et emballé. On y revient juste après. La Bundesliga, le Bayern plus que jamais leader, seul leader même un peu, on peut dire ça. RB Leipzig qui continue à gagner et RB Leipzig qui sont deuxième avec 22 points. Hein. RB Leipzig qui sont imposés 3-1 face à Stuttgart. Dortmund qui sont imposés avec un but de Guirassy, 1-0 face à Augsbourg. Qu'est-ce que vous en avez ? Bon, je pense que ça va aller très vite. Hein, la Bundesliga, il n'y a pas match. Le Bayern sont au-dessus.
Ouais, en plus, avec une équipe qu'ils ont pu faire reposer les titulaires. Même avec une équipe, pas bis, mais une équipe un peu B, ils ont réussi à se défaire d'un Bayern Leverkusen qui, cette année, me semble assez faible. Et Dortmund, Guirassy, qui avait une disette depuis un moment, qui n'arrivait plus à mettre un but depuis qu'aussi il ne tire plus les pénalties.
Depuis l'embrouille Ben Sebaïni.
Donc là, ça va, je pense que ça va lui faire du bien en espérant que ça le relance cette saison. Et non, après, souvent, là, c'est les matchs de ce week-end en Bundesliga, la hiérarchie a été respectée. Donc bon, après, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'exciter. On pense que le Bayern, cette année, va rafler le championnat. Après... Mais à saluer quand même le retour de Leipzig au premier plan.
Ouais.
Parce que c'était une équipe qui galérait quand même malgré les bons prospects qu'ils avaient entre Sesko et Openda, qui eux ont du mal dans leurs clubs respectifs. Donc un bon retour, une bonne reconstruction d'équipe. Et même en ayant eu le départ aussi de Xavi Simon. Donc,
qui galère à Tottenham.
Ouais,
ce mec a voulu une place de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain.
C'est vrai.
Ouais, ouais. Parce que Leipzig, ils n'ont qu'une défaite cette saison. Et c'était la première journée face au Bayern, où ils commencent en prenant 3 ou 4. Et on se dit, oh, la saison galère qui arrive pour eux, etc. Au final, ils ont tout gagné sauf un match nul après. Et ils sont, malheureusement pour eux, il y a le Bayern, mais ils ont 22 points en 9 matchs, ce qui les placerait dans n'importe quel championnat en tête en Europe. Et là, bon, ils ont juste une équipe monstrueuse devant. Et ils ne pourront rien faire, malheureusement. Mais s'ils retrouvent la Ligue des Champions, déjà, ce serait une très bonne opération pour eux. Et pour ce club qui est toujours difficile à jouer dans les compétitions européennes.
Merci Maxence. Je pense que tout a été dit à ce niveau-là. Je rappelle le classement, le Bayern en tête avec 27 points, un 9 sur 9. Tout simplement. RB Leipzig 2e avec 22 points, Dortmund 3e avec 20 points, Stuttgart 4e avec 18 points, Leverkusen avec 17 points, 5e. Et pour le bas de tableau, il y a Edenem qui ont 5 points à égalité avec Mayence et Mönchengladbach qui ont 6 petits points aussi. Voilà pour la Bundesliga. On va se faire le petit quiz de fin. Je pense que c'est le jeu à Maxence, hein, Maxence qui se réveille. Du coup,
je ne m'étais pas endormi. Hein.
Non, pas de souci. On attend que Daniel relance le chrono. Et ça va être parti. Les téléphones posés et retournés, s'il vous plaît, messieurs. C'est parti pour la première question. Quel joueur est le seul à avoir marqué lors de 3 finales de Coupe du Monde différentes ?
Les 3 finales.
Mbappé ?
Oui, non.
Non, il a joué 2.
Ah, il a joué 2.
Ronaldo. Pelé.
Pelé. C'est le roi Pelé, bien évidemment, qui a gagné.
Déjà, joueur qui a joué 3 finales de Coupe du Monde.
Il n'y en a pas 36 000. Il n'y en a pas beaucoup. Pelé qui a gagné en 58, en 62 et en 70, en tout cas, qui a marqué lors de ces 3 finales. Quelle équipe a remporté, quelle nation a remporté l'Euro en 92 ?
L'Allemagne.
Danemark.
Non, c'est le Danemark. Le Danemark, c'est bien joué pour Maxence. Maxence qui est au taquet, hein. Attention. Hein. Maxence qui est au taquet.
Vous m'avez chauffé, je suis là. Hein.
Ouais, on voit ça. Du coup, pour la troisième question, quel joueur détient le record du plus grand nombre de buts en Ligue des Champions ?
Cristiano Ronaldo, non ?
Ouais, c'est ça, Cristiano Ronaldo. C'était assez rapide. Bon. Quel club détient le record de titres de champion d'Angleterre ?
Nottingham ? Non.
Liverpool.
Non, Manchester
United. Ah, bah oui.
Manchester United, non, Liverpool aussi à égalité maintenant.
Ah, c'est égalité ?
À égalité. Du coup, je partage les points, un point partout. Et je pense que là, les carottes sont cuites pour nos joueurs. Quel club a été. Attendez. Juste avant, quel joueur. Excusez-moi, je. Faut pas que ça soit trop facile non plus parce que je vois que Maxence. A mis la barre haute ce soir. Quel club a été. Ça va être la dernière. Quel club a été le premier à réaliser un triplé championnat, Coupe nationale, Ligue des Champions ?
Barcelone.
Real.
Non.
Bayern.
Non plus.
Inter.
Non plus.
Attends, le premier, ça veut dire que c'est. Il y a très très longtemps, parce que la Coupe d'Europe.
Real de Madrid ?
Non. Attends, c'est le Real Madrid.
Mais bon, je l'ai dit.
Qui a gagné. Championnat. Non, je dis que c'est Real Madrid, pas Real de Madrid. Qui a gagné championnat, Coupe nationale et la Ligue des Champions.
Nottingham ?
Non. Messieurs.
City ?
Non.
C'est quel pays ? Tu peux pas dire ?
Ah, si je vous donne le pays.
On a dit Bayern.
Bah, du coup, non. Ça va être la. Bon, ça va être la question à 3 points.
Le PSG,
donc ça va être la question à, c'est la question à 3 points.
Ça n'existe pas, ça.
Du coup, ah, Maxence, il veut gagner.
Sur une question où personne n'a la réponse, ça n'existe pas.
Je vous donne un indice et ça va être parti. C'est une équipe. Vous préférez que je vous donne le pays ou l'année ?
Ouais, le pays.
Quand ça a été fait ?
Ah, l'année.
Non, c'est l'année, ouais, le pays, sinon.
L'année. C'était en 99.
Manchester ?
Manchester United, c'est bien ça pour.
Ah, c'est les premiers Jason, à l'avoir fait.
Oui, c'est les premiers à l'avoir fait dans l'histoire. Manchester United. Voilà, messieurs. Merci beaucoup en tout cas pour cette émission. On va remercier bien évidemment très chaleureusement Monsieur Mendy à la technique. Hein. Merci Daniel pour cette émission. On va remercier Maxence, on va remercier Jason, Théo
merci
et Salson. Merci à vous. Et on vous dit très bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Et on revient la semaine prochaine avec du football. Encore du football, toujours du football. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous.
Salut.
Salut.